Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 53, c'est parti. Bienvenue dans DLT, ça va mon gars Daz ?
Ouais, ça va super.
Est-ce que je répète, il n'y a pas besoin de répéter à chaque fois, que c'est le podcast des passionnés de musique,
non,
que,
ça
qu'on
sait.
Est là tous les 15 jours,
ça
que c'est absolument génial, le meilleur podcast du monde probablement ? Je le répète pas ça.
Bah non, le monde c'est un peu réducteur.
Ouais, de
je
l'univers.
Préfère parler de non,
la
l'univers,
galaxie.
C'est peut-être un peu trop. Galaxie, c'est pas mal.
La galaxie.
Ouais,
la galaxie. C'est pas mal.
Ouais.
Ça va toi sinon ?
Ça va très très bien.
Oui.
Je suis ravi de venir aussi fréquemment puisque nous faisons des enregistrements tous les deux jours à peu près.
Non, t'abuses. Non, mais... La dernière fois c'était quoi ? C'était une semaine ? Un peu plus ?
C'était un samedi.
Ça c'est vrai que c'était pas ouf.
Et là maintenant c'est un vendredi. Alors qu'à la base nous on enregistre les mercredis.
Attends, j'explique.
Ouais.
On collabore avec des gens pour faire cette émission. Il y a besoin de soutien technique, etc.
C'est vrai.
Et il faut arriver à trouver un moment qui correspond à tout le monde, les invités. La technique, c'est difficile, Daz.
Ouais. Non, c'est vrai que la bouclette est très busy. C'est bien, ça veut dire que les affaires marchent bien, même si des gens cassent des murs à main nue. Mais non, c'est cool. Mais effectivement, ça veut dire que on est passé d'une planification quasi suisse.
Oui.
À du n'importe quoi. Un truc un peu plus freestyle, tu vois. Moi, ça me va.
Ouais.
Mais là, effectivement, nous sommes samedi. Nous sommes vendredi, du coup. Ouais. Et ah si, la semaine prochaine, ça sera samedi.
Non, c'est mercredi. On revient sur le mercredi. Je pense que ça passionne les gens ce qu'on est en train de raconter.
C'est complètement passionnant, mais même moi je suis.
Je pense qu'on peut passer à autre chose et expliquer surtout le sujet du jour.
Mais alors
présenter ensuite nos invités.
Mais quel est le sujet, Salman ? Je brûle de le savoir.
Mais tu ne le sais pas en plus, je le sais.
Eh oui.
T'aimerais bien le savoir.
Eh bien oui.
Eh bien je ne vais pas le dire.
Eh bien d'accord. Voilà. Non. Merci Thoman.
Voilà. Yes. C'est la fin du podcast. À dans deux semaines. Ciao. Non, on va parler d'émergence.
D'émergence.
On va parler de professionnalisation dans la musique, Daz.
Mm-hmm.
On va se demander que vous soyez artiste, si vous nous écoutez, vous nous regardez, que vous soyez tout simplement passionné de musique et que vous avez envie de comprendre tout simplement les arcanes de la musique, comment on développe une carrière, par qui on peut être entouré et accompagné, etc. Eh bien, on va le savoir, Daz, grâce à nos invités.
Oh, un programme incroyable.
Mais alors, les gars,
qui sont nos invités?
On est avec Julien Soulier. Salut Julien.
Bonjour.
Merci
bonjour,
d'être
bonsoir.
Là. Bonsoir.
Comme tu veux.
C'est les gens écouteront le bonjour, soir,
bonsoir,
la nuit.
Voilà, bonjour. Soir.
C'est très bien.
Merci pour l'invitation.
Et on est aussi avec Sayem. On t'appelle Sayem. Sylvain, qu'est-ce que tu préfères ?
Ma mère m'appelle Sylvain, donc je serais pas de moins gêné si vous m'appelez Sayem.
Ok, et on t'appellera pas Sylvain. On ne veut pas se substituer à ta mère.
Non, c'est important une maman.
C'est important une maman, on est d'accord. Bon les gars, ça va être passionnant parce que c'est votre métier de soutenir les artistes, de développer avec eux des compétences, des visions pour ce qu'ils peuvent devenir ensuite lorsqu'ils sont musiciens. Chacun avec une expérience différente mais complémentaire.
Mais attends,
ouais, dis-moi.
Ça veut dire que pour être artiste, il suffit pas juste de faire un truc dans ta chambre et de le mettre sur TikTok ?
Malheureusement, non. Alors parfois, il y a certains cas, on en parlera d'ailleurs, parce qu'il y a des success stories, entre guillemets, ou des gens qui, grâce aux réseaux sociaux notamment, effectivement, émergent.
Pour reprendre,
comme
par
ça.
Exemple, la danse des canards en
pour
version
liste. Waouh.
Par exemple, c'est ce qui se passe en ce moment-là.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est une trend en ce moment.
C'est un mec qui s'appelle Léman, je crois, qui fait ça. Et qui a dit venez, on fait croire aux Américains que la danse des canards, c'est un morceau triste.
Ok.
C'est éclaté.
Est-ce que tu penses qu'il va faire carrière derrière ?
Laissons les professionnels nous éclairer.
Je les présente peut-être rapidement.
Allez.
On fait un à un.
Temps,
je commence par Julien Soulier. Ça fait 20 ans à peu près que tu bosses dans la musique. Tu as eu un parcours, tu as été manager d'artistes, etc. Tu as fondé aussi La Familia, qui est aujourd'hui un label, éditeur, producteur de spectacles. Mais surtout, ça fait 10 ans que tu bosses pour Le Faire. Le Faire, c'est une association à but non lucratif qui a été lancée par le ministère de la Culture en 1989
tout
et dont le but, est justement d'accompagner des artistes tout simplement. Alors, pour ça raconter un peu, tu vois, je liste quand même quelques beaux noms que vous avez accueillis,
développés
depuis vos débuts. Ça va de NTM, Les Têtes Raides, IAM, Catherine, Stupéflip, Orelsan, La Femme,
Christian
The Queen, Big Flo et Oli, Pomme, Fishback qu'on a reçu dans cette émission.
Mais attends, tous ces gens-là, ils avaient pas un talent spontané et inné qui les a amenés Non, mais c'est bien, mais c'est vachement bien.
C'est une vraie question.
Ce qui est drôle, c'est que quand tu donnes ces noms-là, les gens ne remettent pas dans le contexte de démarrage de carrière, en fait.
Ah ouais.
Et donc, tu vois, tu peux rajouter Louise Attaque, M, enfin, il y en a tellement, il y a plus de 500 artistes qui sont passés par le dispositif. Et c'est vrai que c'était, à l'époque, les conditions, c'était avant un premier album. Donc c'était vraiment le démarrage, quoi.
Ouais.
Bien sûr, beaucoup de talent, mais besoin aussi de mieux appréhender qu'est-ce qu'on est en tant qu'auteur, compositeur, interprète, et aujourd'hui on rajoute même producteur phonographique, parce qu'il y en a beaucoup qui portent leur master. Et donc en fait c'est vraiment on est, comme tu l'as dit, une association à but non lucratif, donc il y a ce côté intérêt général qui est hyper important, le côté bienveillant, parce que c'est une filière compliquée avec des métiers différents, avec des droits et des revenus complexes à capter, à comprendre, et donc nous on est hyper contents de se lever le matin pour avoir justement ces problématiques là à étudier avec les lauréats.
D'autant plus, ouais, parce que tu parles de lauréats, c'est-à-dire que vous avez différents parcours déjà pour accompagner les artistes, et ouais, notamment deux fois par an, 10 lauréats que vous allez accompagner sur minimum 6 mois, mais en fait, c'est ça. On sait que c'est un accompagnement plus
oui,
long.
Oui, je vais dire ma célèbre phrase, ouais, faire un jour, faire toujours, mais c'est vrai que c'est un peu con, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Moi, ça fait 10 ans que je suis au FER et j'ai remplacé Claude Guyot, qui était la première directrice qui a fait les 25 premières années, que toute la filière a connue, et connaît encore. D'ailleurs, Claude, si tu nous écoutes sur le podcast, je t'embrasse bien fort. Et en fait, j'ai bossé moi depuis 10 ans avec des artistes qui ont eu le faire avant que je sois directeur, qui sont revenus nous voir en disant tiens, j'ai besoin de cours de chant, j'ai un problème, on a monté une SARL il y a très longtemps et en fait on mettait tous les revenus dedans, mais maintenant il y en a un qui veut partir du groupe et comment on fait tout ça. Et en fait, il y a ce truc de
ils reviennent pour des trucs comme ça.
Bien sûr, des fois tu sais plus vers qui trop te tourner, et puis en fait ils disent il y a le faire, là j'avais une artiste qui avait eu le faire en 2002 aussi, qui revenu me voir, et c'est hyper, c'est chouette, enfin tu vois, Cléa Vincent était au bureau il y a pas longtemps alors qu'elle a eu le faire il y a quand même 6-7 ans maintenant, et donc on continue à avoir aussi des relations au Pierre Guénard qui était aussi dans Radio Elvis quand dès qu'il y avait des choix un peu importants et tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir, on essaye d'installer en fait sur ces 6 mois aussi une relation avec eux qui leur permette de se sentir bien, de se sentir écouté, de se sentir conseillé sans intérêt derrière, ce qui est pas toujours le cas, et c'est normal. Enfin voilà, après c'est un business,
ah oui, parce
il y a
que
des
vous,
contrats
à nous, non lucratif, ouais.
Ouais complètement.
D'accord.
On est vraiment d'intérêt général, à but non lucratif, c'est pour ça qu'on peut faire du mécénat et que il y a des entreprises privées qui nous donnent aussi des sous pour ça, tout ça, voilà.
On va revenir en détail sur votre action, on va d'ailleurs essayer de parler plus globalement de toutes les interlocuteurs qui peuvent exister, les acteurs,
oui,
etc.
Parce qu'on a quand même la chance d'être en France et d'avoir quand même beaucoup de choses à disposition des artistes, donc
et on s'appuiera sur ton expérience avec le FER, mais aussi sur l'expérience de Saïem. Alors toi, plus de 25 ans dans la musique, un truc comme ça à peu près?
Ouais. Oui.
C'est ça, non plus, moins, plus, ça te vieillit.
Ça me fait bizarre.
Ça me fait bizarre. Mais à peu près, hein.
À peu près,
Ouais. Tu as commencé en tant qu'artiste, tu as notamment 2 albums à ton actif, une BO de film aussi d'ailleurs qui t'avait permis de monter les marches de Cannes. Je sais que c'était pour toi un objectif, c'était un truc important qui a marqué ta vie aussi.
Il marche pas forcément, mais la BO, là, oui.
Ouais. C'était important.
Quel film sont...
Un film qui s'appelle Qui vive, de Marianne Tardieu, qui était sorti en 2014. Voilà.
D'accord.
Tu t'es orienté. C'est d'ailleurs un truc intéressant, on y reviendra, parce que, vraiment, tu t'es dit, 2 albums, c'est bien. Même, tu t'es dit, un album, pourquoi pas, ça peut suffire. Et t'as voulu faire autre chose derrière. T'es devenu manager d'artiste, photographe aussi, d'ailleurs. Encore aujourd'hui, tu es actif. Je sais que tu accompagnes beaucoup Julien Doré, que ce soit sur les albums, les tournées, des choses comme ça, pour la photographie. Mais t'as photographié aussi Angèle, Clara Luciani, Yannick Noah, des gens comme ça.
C'est vrai.
Et surtout, alors ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, même si ton profil comme ça, un peu atypique, divers, est extrêmement intéressant, parce que je pense qu'il sera utile justement dans les discussions. Mais en plus de tout ça, tu gères depuis 6 ans la création artistique pour FGO Barbara et les 3 Baudets, qui sont donc des établissements culturels, enfin avec une salle de spectacle plus exactement pour les 3 Baudets, où vous faites de la résidence, du soutien aux artistes, etc., tout en accueillant des concerts, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que le FER, c'est vraiment un rayonnement national.
Exactement.
Là où vous êtes lié à la ville de Paris, c'est plus sur un territoire, c'est vraiment local, ancré sur le territoire. Et je pense que ça peut être aussi intéressant, complémentaire.
Paris et Île-de-France ou Paris?
Paris.
Ouais. Ok.
T'as des noms d'ailleurs d'artistes que vous avez accompagnés avec FGO Barbara, 3 Baudets.
Bien sûr. Historiquement, donc pareil, ça fait un peu le concours avec le FER, mais pas du tout. Alors moi déjà, je précise, j'ai eu le FER en 2009, j'ai eu cette chance-là, donc on pourra parler.
En tant qu'artiste,
avec Claude. J'ai pas eu la chance de travailler avec Julien. les artistes qu'on a eus, comme vous allez connaître, c'est un certain Edith Préto, Jacques, Irène Dresel récemment, Eloi, qu'on entend beaucoup parler. On a beaucoup bossé aussi avec Winter Zuko, avec Eloi, avec beaucoup d'artistes. C'est vrai que nous, on est... au tout début, on peut expliquer après les tenants et aboutissants, c'est-à-dire que le but de, alors déjà comme tu l'as dit très bien, il y a deux établissements. Au Trabaudet, on a un dispositif qui s'appelle Cécile Paulet, le prix Cécile Paulet, qui fait avec la Fondation de France, donc pour des jeunes femmes artistes, qui est donc dédié à des critères qui sont, qu'on n'a pas du tout la main là-dessus, c'est la Fondation de France qui gère ça, donc on gère ce dispositif pour eux, et donc il y a un dispositif beaucoup plus pour la chanson française. Et avec Joe Barbara, nous avons un dispositif phare qui s'appelle Variation, puisque nous avons différentes portes d'entrée aussi. C'est très important pour nous de pouvoir arriver jusqu'à nous sur des appels à candidature, forcément, pour Variation, qui est notre dispositif, un peu qui va durer sur un an, où il y a un prix. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un lieu. Ça change beaucoup de choses.
À l'inverse du faire, par exemple, effectivement, où vous pouvez orienter vers des lieux extérieurs les artistes que vous accompagnez, mais vous, vraiment, la spécificité, c'est que, en fait, c'est ça qui est génial avec FGO Barbara en particulier, c'est que le lieu, vous avez des salles de répétition, concerts, etc. Enfin, c'est super.
Oui, en gros, moi, j'aime bien dire qu'on reçoit des artistes, des citoyens et citoyennes parisiens et parisiennes qui ont envie de faire de la musique, qui ont en tête de faire de la musique, et qui se pose 12 000 questions, et moi, je suis là pour, alors, quand je dis moi, mais c'est toute une équipe, déjà, FGO, on est nombreux, il y a 3 Baudet aussi, et sur mon pôle, on est 3, d'ailleurs, je salue Benjamin et Chanel. On essaye de pouvoir répondre à toutes les questions avec, donc, soit moi, qui pilote un peu comme j'étais artiste, comme je suis toujours manager, donc, en gros, moi, je travaille pas à plein temps, que ce soit au 3 Baudet, FGO Barbara, je suis encore manager à côté, et tu l'as dit tout à l'heure, photographe. Donc, j'essaie vraiment d'être là sur le lien avec eux sur, par rapport à la filière et par rapport à l'état psychologique dans lequel ils sont, parce que forcément, on les a très tôt, mais on fait venir beaucoup d'intervenants extérieurs, qui vont pouvoir, les aider sur toutes les questions qui se posent. Donc, ça peut être, on a deux salles de concert, on a 6 studios de répétition, un studio d'enregistrement qui pour moi est très important parce que c'est quand même là où on commence les choses à écrire les belles histoires. Et on a des salles de danse. Et c'est vrai que du coup, toutes les questions sont liées à tout ce qui est forcément artistique, mais technique, stratégique. Et j'aime bien travailler. Alors, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais on prend à en débattre. Moi, j'aime pas le terme coach et j'aime pas les coachs en général. Je préfère des gens qui font le métier. Et souvent, finalement, quelqu'un qui est passionné par son travail et qui a envie de transmettre, je trouve qu'il est facilement, enfin, la pédagogie arrive facilement par ce biais-là. Donc, du coup, on a la chance de travailler vraiment avec des grands noms qui puissent vraiment, et puis aussi, on aime beaucoup, alors je parle beaucoup là, mais j'aime bien, je suis passionné, mais du coup, j'aime beaucoup aussi faire intervenir les artistes entre eux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, leur expliquer qu'ils sont pas que des musiciens. Et qu'ils ont une capacité à justement donner des tips et par rapport à ça on les paye. C'est important cette notion d'argent parce que souvent ils apprennent très vite à toujours rendre service gratuitement. T'es un artiste donc tu dois faire ci parce qu'en échange tu pourras jouer. Non, nous on les considère comme des gens comme des intervenants. Et donc voilà, ils sont payés au même prix, au même tarif que n'importe quel intervenant qui agirait. Avec Joe Barbara et autres beautés.
Puis en plus, ce qu'on peut préciser, c'est qu'on parlait d'ancrage local. Et vous, en l'occurrence, on pourrait même parler d'un ancrage de quartier, puisque vous êtes dans le nord parisien, dans un quartier plutôt populaire. Enfin, il y a aussi un sens particulier, j'imagine, dans votre démarche.
Le 18e, c'est sur les deux salles. C'est-à-dire qu'autant Pigalle, pour les 3 Baudets, et la Goutte d'Or, qui est un sacré quartier, les deux sont Pigalle et la Goutte d'Or, c'est des quartiers historiques de Paris, qui brassent énormément de gens et de typologies de culture et de style d'esthétique musicale. Donc, du coup, c'est assez riche. Et c'est vrai que, du coup, on travaille vraiment avec la mairie 18e, parce qu'en fait, c'est un peu complexe parce que par rapport au FER, justement, qui est un vrai dispositif, moi, je m'inscris dans des lieux qui ont aussi de l'action culturelle. Il y a aussi de la programmation, parce que c'est des salles de concert avec une vraie identité, les deux. Donc, en fait, moi, je suis juste une petite fourmi dans un complexe beaucoup plus gros.
On va rentrer en détail. De toute façon, en tout cas, merci beaucoup d'être là tous les deux. Je précise en plus, merci d'autant plus à Saïem d'être avec nous, parce que je sais que t'as des petits soucis d'articulation avec ton appareil récent en ce moment, donc c'est un peu compliqué pour toi, j'imagine.
Je pense que c'est le bon moment d'en parler. J'ai un appareil dentaire depuis 4 mois que j'ai du mal à gérer, donc je m'excuse d'avance par rapport aux auditeurs, aux auditrices.
Surtout que ça doit te demander un effort, donc voilà. On va essayer de faire avec. Les gars, rentrons vraiment dans le vif du sujet avec peut-être une première partie. En tout cas, vous l'aurez compris, hein, je m'adresse à nos auditeurs. On a des experts à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Je pense que ça va être assez utile. Et puis le fait que vous tous les deux, et vous ayez aussi des... Ouais, toi, t'es un expert aussi?
Ben non, mais moi, je pensais que pour se développer dans la musique, fallait faire des trucs genre Star Academy ou Nouvelle Star, tu vois. Je savais pas.
Tu rentres comme ça direct.
Ah, mais ouais, non, mais pour de vrai, je savais pas, tu vois, qu'il y avait un truc...
qui existait, ou
qui existait pour les musiciens. Je pensais que ça ne...
Il y a plein de façons.
Et bah, bah ouais, mais et bah justement, Daz, tu sais ce qu'on fait? Première
par
partie.
Je me permets juste.
Vas-y, je t'en prie.
Eddie De Pretto, il est pas de Créteil. Parce que, non, mais parce qu'il a dit.
Non, mais après, il faut pas être né à Paris, forcément, je pense.
Non, il a dit parisien. Moi, je suis du 9-4. Ça m'intéresse de savoir.
Mais
est-ce
non,
que
mais
c'est
il
Paris
habitait à Paris.
Non,
mais
quand... Est-ce que je peux répondre?
Oui, vas-y. Parce qu'il faut être né à Paris.
Il faut, en fait, on demande une adresse parisienne au moment de l'inscription. Donc, en fait, comme beaucoup de gens.
Et comme pour Henri IV, en fait, tu sais, ils se mettent tous dans
la carte scolaire.
Parce qu'on peut parler de Créteil, mais c'est le même cas que c'est-à-dire qu'en fait, Paris est une capitale. Ça, je vais pas vous l'apprendre ce soir. Donc, du coup, on a aussi des artistes qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Lyon, qui viennent de Toulouse et qui s'installent à Paris. C'est pour ça qu'en fait, du coup, du moment que sur l'année en cours, ils ont une adresse à Paris.
C'est droit du sol.
Okay. Bah, non, mais très bien. C'est l'avantage et l'inconvénient d'une capitale. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé pouvoir aider les Parisiens. Donc, du moment qu'ils ont une adresse à Paris, pour nous, ils sont parisiens.
Même les Lyonnais,
puis. Même les Lyonnais ont eu droit, tu te rends compte?
On n'a jamais eu de Lyonnais, par contre.
C'est de la discrimination.
Alors que nous aussi, on a eu des Lyonnais.
Ah, voilà, voilà. Ouais, commençons avec cette première partie pour justement y voir un peu clair, parce que Daz, tu nous disais, toi, tu savais même pas qu'il y avait des gens là.
Ah ouais, ouais.
Parlons des acteurs. Juste un petit topo rapide. Mettez-vous dans la peau, en plus des gens que vous croisez tout le temps, d'un type qui est peut-être dans sa chambre, home studiste, ou qui commence à tourner avec son groupe dans les bars du coin, etc. Et il se dit, moi, j'ai envie de tendre vers la professionnalisation. À qui il peut parler? Est-ce qu'il y a des acteurs publics, privés? Est-ce qu'il y a des structures? Est-ce qu'il y a des jeunes, des individus plutôt? Tu parlais de coach par exemple. Est-ce que c'est à l'échelle nationale, locale, sa municipalité, sa ville, ou alors peut-être la région? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités en France?
Il y en a pas mal. Hein. Enfin, moi, quand je rencontre, parce qu'on bouge un peu partout, et quand je rencontre des artistes, on leur dit, enfin, moi, en tout cas, je leur conseille d'aller pousser les premières portes qui sont locales. Et on a un réseau de scènes de musique actuelle qui s'appelle les SMAC en France. Il y en a une centaine. Chaque ville a à peu près sa SMAC. Alors pas dans Paris intramuros. Il y avait une.
C'est pour ça qu'il y a une histoire de territoire.
Il y a une histoire de territoire.
Il faut séparer la région et Île-de-France et Paris.
Mais tu vois, je sais pas, moi, Nancy, ça s'appelle l'autre canal. Toulouse, c'est le bikini.
Rio Grande à Montauban.
C'est de la pub locale.
Incroyable, on dirait le nom d'une boîte.
Toute la soirée, c'est la pub pour ma région.
La sirène à La Rochelle. Bref, c'est des lieux qui ont le label SMAC, un label qui est donné par le ministère de la Culture. Et en fait, dans ce label SMAC, il y a des missions qui doivent être justement remplies par le lieu pour pouvoir avoir cet argent qui est donné par le ministère. Et notamment, il y a de l'action culturelle dont tu parlais. Il y a de l'accompagnement. Et donc, en fait, il y a des personnes ressources. Alors, c'est plus ou moins en fonction des équipes qu'il y a, bah des fois c'est vraiment quelqu'un qui est dédié à ça, mais quelqu'un qui va faire ça plus autre chose, ou c'est une petite équipe et ça va être plutôt le régisseur général qui va, enfin voilà, mais accompagnement, ça veut tout et rien dire, quoi.
Et quelle que soit ta pratique musicale, tu peux t'orienter vers une SMAC?
Ouais, tu peux ouvrir, dire bonjour, moi je m'appelle Jean-Claude, je fais de la musique et qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors il y a des choses qui existent très light qui vont te permettre de découvrir un peu comment fonctionne un lieu, quels sont les métiers, tout ça. Je pense à la Normandie avec Norma, ils ont Start and Go, c'est un dispositif. Alors là c'est un truc régional, mais Start c'est vraiment pour les premiers artistes qui arrivent et qui veulent un peu mieux mettre des mots sur des notions, etc. Et après Go, c'est de l'argent qui est donné au projet qui se professionnalise, et plus c'est pour avoir un accompagnement avec un coach, pas un coach, c'est pas le bon terme.
Attention, ça y est, tu regardes là, regarde moi.
C'est pas un coach, c'est vraiment un référent qui va te suivre à l'année en fonction de tes problématiques et tout ça. Et les SMAC, la pépinière du Krakatoa à Bordeaux par exemple, la Mérignac.
Pépinière du Krakatoa.
Ouais,
qui
a vu
ça,
sortir.
Connais,
non mais tu vois des hauts douzaines sont passés par là. Enfin tu vois, il y a aussi aussi. Il y avait au Tetris au Havre aussi. Enfin bref, et donc c'est des endroits dans ta ville où c'est un peu comme AFGO où t'as des studios de répète, pas tous hein, mais souvent t'as quand même des studios de répète, studios d'enregistrement, t'as le club qui fait 500 places et la grande salle, ils peuvent t'ouvrir pour faire des filages. Bref, et t'as des personnes, souvent c'est des équipes de aller entre 12 et 20 personnes dans ces lieux-là et donc des métiers directement liés aux musiques actuelles et qui vont déjà t'accompagner. Et après, quand ils voient une volonté du son, de la régularité, des choses comme ça, ils vont après te dire, tiens, ça serait bien de postuler aux Inouïs du Printemps de Bourges, par exemple.
Ça, peut-être que Sayem, tu peux nous en parler. Est-ce que, parce que vous accompagnez à l'échelle locale, justement. Est-ce que derrière, souvent, vous orientez vers d'autres structures, peut-être plus grosses, ou à l'échelle nationale, par exemple, pour un peu avoir l'idée des différents acteurs. Tu nous parles des festivals avec les Inouïs.
Parce que vous n'êtes pas considéré comme une SMAC pour...
Non, il n'y a pas le label SMAC.
Voilà.
Okay. Il y avait une histoire de regroupement avec plusieurs salles, notamment le Petit Bain, etc. Mais, enfin bref.
Déjà pour revenir sur ce qu'il vient de dire, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la porte d'entrée. Parce qu'en fait, souvent, malheureusement, et c'est parce qu'on peut être à Paris, on simplifie tout avec Paris. Mais les vrais acteurs et même historiques, ce sont les SMAC avant Réseau Fait du Rock. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'avant ces personnes-là, il n'y avait pas de salles en France. C'était des bars, des music halls et compagnie. Et c'est vraiment dans les années 80 qui, avec le grass rock alternatif finalement, où les gens en fait se sont dit, il y a rien pour nous, donc on va monter en fédération et un asso des salles.
Ouais,
et
donc avec, c'était une volonté de.
Oui, et avec ce truc un peu de. C'est pour ça qu'on part en tournée. Généralement, on part en tournée dans ces types de lieux-là qui sont un peu tous montés un peu de la même manière avec, comme tu disais très bien, ils ont. Quasiment tous maintenant des studios de répétition, ils font de l'accompagnement scénique, ils se parlent énormément entre eux sur la programmation. Donc, c'est vraiment pour moi les premiers acteurs et qui sont très importants. Après, moi, à Paris, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire de territoire, c'est que moi, déjà, je récupère beaucoup les gens de région qui, justement, ont. Parce qu'en fait, les SMAC vont. Ça m'arrivait à Montauban, mes premières dates avec Montauban, ou à Toulouse, ou Bikini. On peut jouer très facilement. Après, c'est vrai qu'au niveau régional, après, on peut être bloqué. Et souvent, il y a cette phrase de monter à la capitale, qui est encore juste. Et s'inscrire après sur des dispositifs comme le nôtre à Paris. Et c'est vrai que nous, dans la manière de s'occuper des groupes, on est un peu en amont du fer, par exemple. C'est-à-dire que souvent, c'est des groupes qui vont arriver, on va être une première porte pour eux, et c'est vrai qu'après, on va les aiguiller, on se parle tous, hein. C'est comme les programmateurs, ils se parlent tous, nous, on se parle, on se voit toujours sur les festivals de découverte, où on a nos contacts, on s'appelle, et on se parle, et c'est pareil avec le chantier des Franco, c'est pareil avec Bourges, Bourges, c'est encore un peu différent, parce que c'est un festival de découverte qui, pour le coup, pareil, qui est national, qui est très gros et qui permet sur un événement de faire venir tous les programmateurs et donc du coup pendant une semaine de voir ce qu'on appelle les Inouïs du Printemps de Bourges.
Mais ça j'imagine, parce que c'est vrai que dans le circuit musical français on sait que c'est un passage important quand on est un artiste en développement de pouvoir être par exemple aux Inouïs. Par contre j'imagine que on y accède après un certain parcours quand même, c'est pas non plus le truc ouvert à toutes les portes.
Non, parce que enfin c'est quand même en démarrage de carrière aussi et c'est
mais avec un accompagnement en général quand même avant pour non il y a un peu de parcours avant ou pas forcément
pas tant que ça.
Moi je suis dans ma chambre et je peux choper les Inouïs demain si je veux.
En fait oui ouais. Mais en passant par le réseau Printemps, enfin c'est un réseau régional, justement ils ont des antennes et ils font du repérage et donc justement ils passent par les salles pour voir un peu les pépites qu'il peut y avoir. Et justement il y a quelques années ils ont décidé Rita, Boris et toute l'équipe de se dire il faut qu'on rediminue un petit peu le niveau justement de professionnalisation, il faut qu'on aille encore plus sur l'émergence et tout. Et donc c'est vrai qu'il y a des artistes qui comme ça vont passer de leur chambre directement devant 400 pros. Et enfin les Inouïs c'est vraiment un passage hyper important et t'as pas deux fois la possibilité de faire une bonne première impression, c'est-à-dire que ce live là si tu le foires
ça va être compliqué.
C'est un peu tendu quoi. C'est
tu vois, c'est la pression ça doit être.
Tu vois, déjà, c'est un public de pro, donc qui est moins comme ça.
Ouais. Ah, c'est que un public de pro, alors
Non, il y a
non,
un peu
mais
de public,
un peu, mais franchement, il y a quand même énormément de pros. C'est à midi et demi, tu vois, c'est vraiment toutes les demi-heures, tu passes au Est-Ouest, c'est le 22 Est-Ouest qui est un endroit parfait, où midi 30, t'en as un, 13h l'autre, 13h30, ça enchaîne.
C'est dur, ouais, tu trouves ça, Yem, que c'est.
C'est dur, c'est Bourges, c'est. c'est un passage qui, alors, nous, comme on est très en amont, on parle de tout ça. Après, on y reviendra peut-être dans, dans la thématique, mais c'est avant de parler de bourse, nous, on parle de musique. C'est déjà, en fait, pourquoi tu fais de la musique? Pourquoi tu viens nous voir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi, je pose toujours trois questions qui paraissent bateaux, mais qui sont finalement très difficiles à répondre. C'est qui es-tu donc, dans le domaine artistique? Qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire? Si ils arrivent à répondre à ces questions-là, ben, on avance très facilement et on met en place des choses. S'ils n'y arrivent pas, on met en place d'autres choses pour justement...
répondre à...
En fait, cette notion de temps, elle est vachement importante. Moi, c'est ça que j'aimerais dire, si jamais il y a des artistes qui nous écoutent ce soir, c'est cool. On n'est pas pressé, tout va bien. Je pense que c'est intéressant de sortir une fois qu'on est vraiment sûr de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie de montrer. Beaucoup d'artistes sont, ont envie de jouer live. Et je comprends, parce que en fait, c'est la finalité d'aujourd'hui, de jouer, c'est normal. Mais en fait, ça sert à rien de jouer si on n'est pas prêt. Quand je dis jouer, c'est se présenter, vouloir aller tout de suite, soit aller aux Inouïs, alors qu'on n'est pas prêt, on peut attendre un an de plus, ou présenter une candidature offerte, c'est pareil. Il y a une histoire de temporalité qu'il faut respecter. Et je pense que cette notion de temps, elle est vachement importante. Et nous, on a la chance, comme on dit tout à l'heure, d'avoir des espaces qui permettent de poser les choses. Et le studio, par exemple, en fait partie. Alors, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais le studio, c'est vrai que tout le monde a des home studios. Enfin, c'est très facile aujourd'hui d'avoir une carte son, un micro, un casque, et dans une chambre. Généralement, le son est plutôt pas mal, contrairement à la salle de bain. Quoique, dans certaines esthétiques, pourquoi pas. Mais
merde.
Du coup, cet aspect de... Pourquoi je parle du studio? Parce que c'est le premier endroit où on va pouvoir essayer de poser ce qu'on a dans la tête sur quelque chose qui peut être écoutable. Et à partir de ça, c'est de toujours se questionner sur qui je suis, en fait. Parce qu'en gros, bon, on rentre dans le sujet, c'est-à-dire que finalement, souvent, je m'adresse à des artistes, enfin, souvent, c'est des artistes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, donc qui sont en devenir des adultes et qui, en fait, comme nous tous, et même encore aujourd'hui, on n'a pas forcément toujours confiance en nous. Moi, je me mets un appareil dentaire à 43 ans, bon, va chercher pourquoi. Mais en tout cas, ce truc de, ok, et souvent, c'est vrai qu'on a envie de gommer un peu tout ce qui nous est cher pour essayer de pas copier, parce que ça peut être un peu mal vu ou mal interprété, mais on a envie de ressembler à. Moi, combien de fois ça nous est arrivé d'être avec des artistes en disant, ben gros, il y a eu le phénomène Angèle, on a envie de faire du Angèle. Sauf qu'au moment où tu copies Angèle, ce disque-là, elle a composé il y a 2 ans. Donc toi, tu essaies de faire un truc qui est déjà vieux de 2 ans et elle est déjà ailleurs. Donc il dit, il y a une espèce de décalage de temporalité qui est vachement à prendre en compte. Et donc du coup, c'est leur dire, mais en gros, pose tes valises, essaye des choses et surtout utilise sa particularité. En fait, c'est con, hein, parce que c'est un truc de bisounours, mais on est tous différents. Donc quelque part, on peut ressembler à telle ou telle personne, s'inspirer de telle ou telle chose, mais en fait, concrètement, l'addition de tout ce qu'on est quelque chose qui est unique. Et donc, plus on va travailler à partir de ce qu'on est nous, même des choses qui peuvent être négatives, finalement, en fait, on va toucher des gens. Je parle souvent d'un truc qui est complètement... Le pseudo-raciste, par exemple, pseudo-raciste, qui est un truc qui touche beaucoup de personnes. La première personne qui va faire...
Une maladie de la peau.
Ouais, comme l'eczéma, finalement. Mmh. Tu fais une chanson sur le pseudo-raciste aujourd'hui, qui est considéré comme un truc un peu honteux, mais en fait, t'as 3 ou 4 millions de Français qui en souffrent. Bah, déjà, c'est pas un truc de marketing du tout.
Mais c'est une bonne technique.
Ce que je veux dire, c'est que c'est juste partir, finalement.
Pour toucher des gens.
Mais si tu pars d'une réalité qui est la tienne, et que tu l'as fait d'une manière honnête, et tu l'exprimes avec tout ce qui tu es, tout ce qui te compose, et même certaines fragilités, mais en fait, tu vas toucher un écho, tu vas avoir quelque chose. Et peut-être une ton audience, elle va être 4 personnes. Mais ces 4 personnes, elles vont être fidèles, elles vont rester. Et ça va grossir.
Mais vous, à FGO en tout cas, cette audience de 4 personnes, vous dites, allez, on y va. C'est-à-dire que si moi j'arrive et je dis, j'adore le trombone, et j'ai envie de faire du trombone, c'est ma vie, et que je viens chez vous, je pousse la porte, est-ce que vous allez pas me dire, frère, le trombone, c'est compliqué, va au conservatoire, ou allez, on y va, est-ce que t'as une proposition artistique?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait,
est-ce que vraiment il y a un truc de, il faut que ça soit moderne, il faut qu'il y ait un potentiel, qui est...
Moi, là où j'interviens, je donne jamais mon avis. Je trouve
d'accord.
Alors, ça peut arriver dans l'année de donner des avis, parce qu'après, on sympathise, il y a une espèce de confiance qui arrive, donc on peut parler. Mais je trouve que c'est pas très intéressant. D'ailleurs, le premier truc que je dis aux artistes, savoir si ta musique est bien ou pas bien, on s'en fout. Il y a toujours des gens qui vont la trouver bien, d'autres qui vont la trouver pas bien. Donc, en fait, ça, on le jette. Moi, là où je dois interférer, c'est j'écoute qui est la personne et qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et par rapport à ce qu'elle souhaite faire et par rapport à la réalité dans laquelle on est, je vois si ça match.
D'accord.
Alors après, par rapport à ce que tu dis, il y a 2 choses. Nous, on a des sessions d'écoute qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, par rapport à... On a typiquement, on n'a pas eu encore cette passion de
trombone.
Le toujours en trombone.
Okay.
Mais on peut arriver avec ce genre de trucs. Et après, sur variation Cécile Pollet, il y a un jury. Donc il y a une sélection, il y a un jury qui est paritaire et qui est au trois quarts extérieur FGO. Et moi j'aime bien dans les jurys toujours, je crois que c'est pareil pour le faire, moi j'aime bien pouvoir bon, dire la parité c'est nécessaire, qui est aussi un terme d'esthétique qui soit représenté par différentes personnes, et surtout j'aime beaucoup mettre, au début c'était beaucoup les jurys, c'était beaucoup de pros.
Ouais.
Il y avait beaucoup d'entre-soi, et ce qui est bien, parce que finalement, c'est quand même eux qui ont un peu son décisionnaire, mais
ils ont les clés,
je trouve que c'était intéressant quand même de pouvoir que les artistes puissent être jugés aussi par d'autres artistes. Donc nous, il y a beaucoup d'artistes, il y a des gens de la promo, de la communication, parce que pareil, c'est important qu'ils puissent défricher. Oh là là. Donc il y a de la promo pour défricher, donc c'est la Paris Dentaire qui... Et après, il y a des gens qui peuvent venir du spectacle vivant, donc des chorégraphes, des gens. En fait,
d'accord.
Pour essayer de créer plutôt, nous, ce qu'on aime bien faire à Variation, c'est, on a le droit à 10 artistes, c'est pouvoir essayer de créer, pas une équipe de foot, parce que sinon, il en manquerait un, ou une, mais c'est plutôt créer une espèce de team qui correspondrait un peu à une époque et par rapport à un timing aujourd'hui.
C'est le timing. Donc, genre de promo, c'est ça de...
La promo, sans tomber dans ce truc un peu scolaire, mais ce côté un peu. C'est le bon moment pour eux. Il y a plusieurs artistes qui ont eu variation après deux ou trois fois, deux ou trois candidatures.
D'accord. Donc ils se présentent, ils sont recalés.
Parce qu'en fait, une fois de plus, c'est pas les meilleurs qui sont retenus. C'est pas une histoire de compétition. C'est déjà chaque année le jury est différent.
Ouais.
Donc c'est il y a une couleur qui émane
dans
jury.
La bonne vibe.
Et donc il y a une histoire de timing qui est importante.
Peut-être que Julien peut nous parler un peu de avec le fer et de manière générale, parce que tu disais on peut pousser la porte de la SMAC du coin. Et ensuite, comment on va être déterminé qui peut être accompagné? Est-ce que justement, c'est souvent une forme d'appel à candidature avec des lauréats? Parce que je sais que le FER, par exemple, fonctionne comme ça. Est-ce que c'est aussi la norme dans les SMAC, des choses comme ça? Comment on accède typiquement à un accompagnement type résidence?
Il y a des appels à candidature, puisqu'il y a quand même des temporalités, il y a des saisons. Et donc, après, tu postules, que ce soit les Inouïs, là, c'est sur le mois d'octobre. Nous, c'est deux fois par an, en octobre et puis en mars, si je dis pas de bêtises. Le chantier des Franco, pareil, tu peux poser ton dossier là jusqu'à la fin de l'année, ils vont se décider. Donc oui, il y a déjà une volonté de l'artiste de se professionnaliser puisqu'il va s'inscrire à ces dispositifs et il va postuler quoi.
Il faut c'est un dossier un peu béton qu'il faut mettre. Parce que Saïd me disait par exemple, moi d'abord je veux savoir c'est qui es-tu artistiquement, comment.
Nous en fait déjà il y a
ça dans le dossier, j'imagine que ça doit être un peu déjà précis.
Chacun a ses dossiers. Nous il est assez complet et on demande justement quel est l'entourage déjà, qui il est, ce qu'il veut faire. Quels sont ses besoins en formation, qu'est-ce qu'il attend de faire s'il est lauréat. Et voilà, on, chaque personne, est-ce qu'il a fait du conservatoire ou pas, enfin voilà, on essaye d'avoir un maximum d'informations et de l'artistique aussi pour donner après au comité artistique qui est nous aussi indépendant, paritaire et qui va choisir. Nous, on a resserré sur les métiers un peu management, producteur phono, producteur de spectacle et éditeur. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on leur demande d'être référents et de nous accompagner aussi dans
Tu parles du jury, là, c'est ça,
ouais, ce qui est, voilà. Ouais. En fait, quand tu choisis, par exemple, je sais pas, j'ai vu Maïra ce matin, elle a été choisie par Marie-Lou qui bosse chez Zouave, qui est un tourneur, et Marie-Lou s'engage à faire quelques rendez-vous avec nous et avec elle. Et l'idée, c'est plus on est autour de la table, plus on est là pour les réflexions, savoir justement ce qu'on veut faire, etc., mieux c'est. Donc nous, il y a un engagement bénévole de la part des gens de la filière pour justement faire 2, 3, 4, 5 rendez-vous dans les 6 mois pour pouvoir aussi créer du lien avec ce réseau. Quoi.
Alors vous, en l'occurrence, le faire, ça vous êtes une structure quand même historique, nationale, importante. Est-ce que les critères sur des accompagnements plus locaux, type SMAC, etc., ils sont aussi précis quand même. Est-ce que pour avoir une chance de vraiment bien être accompagné, il faut quand même avoir un dossier un peu béton, savoir ce qu'on veut, parce que tu disais que c'était aussi quand même votre métier. Donc comment...
T'as combien de candidatures, toi, pour Variation ?
À Paris, ça augmente chaque année. Là, on a eu un peu plus de 600.
Pour 10 places ?
Ouais,
c'est énorme.
Ouais. À Paris. Hein.
Donc l'entonnoir, il est quand même bien l'entonnoir.
Oui, et surtout, ce qui est très compliqué, c'est pour ça que la notion du bien, pas bien est désuète, c'est-à-dire que moi, ça va faire à peu près 15 ans, je crois, que j'interviens auprès de FGO. Donc au début, même quand je faisais de la musique, j'intervenais justement sur la partie studio. Et donc depuis 6 ans que j'ai mis en place ce dispositif-là, le niveau, chaque année après année, augmente de fou. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on recevait à peu près au début, on en recevait 300-400. Honnêtement.
Ça a quasi doublé, donc.
Ouais, ça a quasi doublé.
En 6 ans.
Ouais, à moins de 6 ans, parce que ça fait déjà 2 ans que ça fait un peu 6 ans. Mais au début, c'était très facile un peu d'épurer dans le sens où il y avait vraiment des choses qui étaient hors propos par rapport au timing, par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Mmh. Aujourd'hui, sur les 600, on enlève facilement 100, 150 qui sont hors critères. Donc, et des choses peut-être quelques
artistes... hors critères, c'est-à-dire.
Parce que nos critères, enfin, ils sont beaucoup plus simples que le faire parce que du coup, on est pas au même niveau de
développement.
Oui, comme tu disais, vous, c'est un peu en amont, c'est avant le faire d'une certaine manière.
Ouais. Nous, nos critères, ils sont, il faut être parisien.
Oui, bon, déjà, ok.
Il faut avoir un minimum de 30 minutes de morceaux pour pouvoir les jouer.
Ah, d'accord.
Combien de temps?
30 minutes. Ok. Donc, il faut quand même
donc,
avoir.
Critères, et après, donc, il faut. On a tout un questionnaire, donc, a envie de travailler, avec rencontrer d'autres groupes, faire de l'action culturelle. En tout cas, comprendre les enjeux. Une fois de plus, moi, j'aime pas le côté de donnant. C'est-à-dire qu'en fait, t'es venu ici, donc du coup, en contrepartie, tu vas avoir telle ou telle contrepartie. Mais par contre, c'est comprendre qu'en fait, on est un lieu particulier et il faut s'inscrire dans ce lieu-là particulier. C'est-à-dire que si t'as pas envie,
il faut avoir le bon mindset, en fait.
Tu veux juste être accompagné pour pouvoir dire, moi, j'aime pas trop le mot accompagnement parce que ça fait un peu toujours, viens, petite personne, on va t'aider. C'est plutôt du soutien. Moi, j'aime bien ce mot. En gros, on a envie de. Moi, je me situe vraiment comme un partenaire. Et je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est partenaire. On est, j'aime bien dire, finalement, une sorte de manager, éditeur, donc à compte d'auteur, parce que heureusement, on m'a donné de l'argent. Et je pense qu'une des grandes forces de nos systèmes, c'est qu'on n'est pas intéressé financièrement au projet. Et c'est pareil avec le faire. C'est-à-dire que si pourquoi il y a un bouche à oreille qui marche à fond, c'est que c'est rare d'avoir un lieu où tu vas pouvoir parler très précisément de ton environnement. Des gens qui vont t'aider à dealer des contrats, te faire rencontrer toute la filière sans séduction et sans intéressement financier au projet. Ouais. Parce que même un manager, finalement, qui est le premier partenaire qu'on trouve, il est intéressé financièrement au débat. Est-ce qu'il faut un éditeur ou pas? Lui, il va dire, moi, je prends quand même 15% du deal. Donc, alors que nous, on va pouvoir conseiller les artistes d'une manière vraiment bienveillante, précise et sans intéresser financièrement.
Est-ce qu'en général, vous intervenez, j'imagine la plupart du temps, avant signature avec un label éventuel, par exemple, ou là, il pourrait y avoir quand même, non pas une incompatibilité, mais en tout cas des velléités d'un label, par exemple, qui dit, nous, on peut t'accompagner sur ça, vous aussi, mais vous n'avez peut-être pas la même vision, j'en sais rien.
On fait ça, c'est des cas qui arrivent. Déjà, on arrive un peu, on a déjà des artistes qui ont déjà signé. Parce que le problème, c'est pour ça que je pense qu'il faut, le débat, il est vraiment sur le début. En fait, il y a tellement de gens malveillants dans cette filière, comme partout, dans tous les milieux. Mais en fait, un artiste, qu'est-ce qu'il a envie quand il commence? Il ne veut plus être tout seul. Ouais. Donc, il préfère être avec quelqu'un, même s'il sait que c'est malveillant, même s'il sait que le contrat qu'il va signer n'est pas à sa faveur. Il préfère avoir un contrat. Alors souvent, la malveillance, elle vient. Alors c'est pas des gens qui sont méchants et qui veulent vraiment défoncer les artistes. C'est juste, par exemple, les éditions. Les éditions, c'est quand même quelque chose, c'est un peu l'âme des morceaux. Quand on signe un contrat d'édition, c'est pas un contrat qui
lie à l'œuvre. L'édition, c'est ce qui va protéger l'œuvre, l'écriture de l'œuvre, entre guillemets.
Mais sur une durée qui
c'est pas le phono, c'est pas la production. En fait, il y a un enregistrement, là, c'est vraiment ce que t'as créé,
master,
quoi.
On est sur les œuvres, en fait.
On est sur l'œuvre, donc sur l'âme de l'œuvre, et qui est donc sur une durée de 70 ans après la mort du dernier ayant droit, en fait. Donc ça correspond à un truc qui est, c'est plus qu'un mariage. C'est un mariage au-delà de la mort, quoi. Donc, c'est un truc qui est. Et donc, les gens, souvent, aujourd'hui, les petites structures que je ne connais pas, parce que déjà, il y a des petites structures, des petits labels qui font les choses comme il faut, qui ont vraiment un travail pédagogique avec les artistes, mais il y en a non. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, tu comprends, on va développer beaucoup d'argent, donc du coup, c'est nous tes éditions.
Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant tout engagement du type contractuel, etc., le mieux, c'est de s'orienter vers un milieu plutôt associatif, structure publique, etc.
Il y a plein de gens compétents et bienveillants qui peuvent déjà aider. Parce que nous, justement, pour répondre à ta question, après, je te laisse parler, parce que du coup, je vais prendre la parole, c'est qu'on arrive, nous, justement, à casser des contrats. Ça nous arrive, mais tu sais que toi aussi, c'est pareil, à remettre de l'ordre avec les partenaires et surtout rassurer, dès qu'il y a des groupes qui arrivent avec des partenaires, les rassurer en disant que nous, on n'est pas là du tout pour prendre leur place. Au contraire, on va aider soit des managers à être plus aguerris. Donc, c'est pour ça que nous, il y a une histoire de confiance. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais je leur dis souvent, il va nous faire vite nous faire confiance et vite nous dire les choses. Parce qu'en fait, comme on n'est pas intéressé financièrement au projet, qu'après un an, on ne se voit plus, vous avez plutôt intérêt à nous dire les choses. on va pas se mentir, on va pas, ça sert à rien. La séduction. La séduction est un gros problème dans notre métier. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne sait pas besoin de se séduire. Nous, les gars, on vous a choisi parce qu'on aime le projet, on a envie de vous aider. Donc, dites-nous la réalité économique. Parce que souvent, il y a beaucoup d'artistes qui se la racontent, alors qu'en fait, ils sont RSA. Mmh. Arrêtez de se la raconter. On sait très bien. Et c'est pas un problème, en fait. C'est juste que plus on va savoir l'entourage économique et contractuel des gens, plus on va pouvoir les aider et les aider à signer. Contrôler les signatures, les aider sur entre tel type de partenaire, ok, il y a trois éditeurs qui se battent ou des tourneurs, dire bah voilà, on fait les rendez-vous chez nous, donc il y a un endroit safe pour pouvoir recevoir les artistes, ils peuvent les rencontrer, on débrief. Ce truc-là, il est vachement important.
Donc c'est toujours protéger l'artiste en fait.
Toujours. Votre...
D'accord.
C'est pour moi, c'est mon ouais. cheval de bataille.
Okay. Julien, ouais, toi, est-ce que tu.
C'est le cheval de bataille ?
Oui. Oui, c'est très bien.
Très bien.
Est-ce que tu partages un peu le constat de Saïem ? Est-ce que tu considères que le milieu de la musique, c'est un milieu difficile quand on est seul, qu'on peut se faire avoir, même parfois ?
Ouais, c'est hyper compliqué, bien sûr. Parce que, enfin, le côté. Être seul ou mal accompagné, enfin, tu vois ce que tu disais. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, tu demandes à un artiste de faire des bonnes chansons, d'être bon en live, d'être bon sur les réseaux, d'être bon en image, d'être comptable, d'être, enfin, t'as trop de choses. Donc, à un moment, ils explosent en vol. Et donc, effectivement, dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ton projet, bah, tu t'es content. Mais parfois, en fait, bah, tu passes plus de temps à déléguer qu'à faire toi-même, ou t'as des compétences que quelqu'un va t'apporter moins bien. Bref, c'est hyper complexe. Et nous, le premier truc qu'on leur dit, c'est on bosse avec des avocats, des business affaires aussi pour tout ce qui est relecture de contrat, négociation, etc. On n'est pas des deal breakers, on est des deal makers. Il n'y a pas de problème, mais on veut que l'artiste comprenne le pourquoi du comment il est en train de signer justement peut-être des éditions jusqu'à 70 ans après sa mort.
Ça arrive ça que vous ayez des artistes qui ont déjà signé avec un.
Ah oui, nous on a des artistes qui sont en major, qui sont chez Vagram, chez Piass, chez Sony ATV, chez Universal Publishing, chez Alterca, French Flair, chez...
C'est quoi l'intérêt pour Vagram d'avoir un artiste qu'ils ont signé qui pousse votre porte à vous? Parce que potentiellement, ça veut dire que vous allez mettre un peu votre nez dans leurs affaires, dans...
Alors moi, j'ai une réponse pour toi qui peut être... parce que sinon, c'est un peu... Mais pour moi, je kiffe le faire, par exemple.
Ouais.
Et comme je suis extérieur de faire, donc on peut pas m'accuser de je sais pas quoi... Le faire est un tampon, et encore aujourd'hui, c'est une validation de la filière, et c'est très important.
D'accord.
C'est pour ça qu'en fait, c'est vrai que souvent, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin du faire ? Mais en fait, on est dans un milieu très compétitif.
En fait, il disait un tampon qualité.
Au début, je croyais que c'était un tampon qui faisait contact entre deux trucs. Ouais. Non, là, c'est plus ça.
Aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de très validation. C'est vrai que le faire.
Mais validation. Pour les gens du milieu, parce que moi, en tant que citoyen du pays,
le public s'en fout.
On n'est pas là pour le grand public. Nous.
D'accord. Ouais, ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que ça, grâce quand t'as le faire, imaginons t'as un partenaire éditeur par exemple, ouais. Et un manager, et tu cherches un tourneur ou un label.
Tu vas être pris au sérieux si.
Le jour que t'as le temps pour le faire, il y a un truc qui fait que, ok, c'est reconnu par la filière, mais au même titre que tu vas à Bourges, t'es pressionné à Bourges, il y a ce truc un peu.
Le chantier des Franco, tu vois, il y a des.
Variations.
Et puis j'imagine quand même qu'un label a tout intérêt à ce que son artiste soit bien formé aussi pour développer une carrière qui finalement bénéficiera aussi à terme au label.
Oui, mais ça, moi je pensais que le label, bah, il s'en occupait, c'était son taf.
Non, ils ont de moins en moins de temps. Enfin, tu vois, c'est fini le temps où on te signait en contrat d'artiste pour 4 albums fermes et on écoutait des maquettes guitare-voix, piano. Nos voix, et puis le DA prenait un an pour te faire présenter des réals et qu'on allait voir qu'aujourd'hui tout va très vite.
Mais ça veut dire que
tu le sais, les gens arrivent, c'est déjà mixé, masterisé. Enfin, en gros, la filière elle rentre dans un train qui est déjà en route et c'est l'artiste qui a mis en branle tout ça, quoi. Enfin,
non, mais ça, c'est ouf parce que ça veut dire que ça enlève encore plus le rôle de la major, c'est-à-dire, et ça littéralement à que dalle. Parce que moi je me disais, ok, ils sucrent au passage et
non,
tout,
non,
mais.
Tu peux pas... Non, non, tout le monde doit jouer son rôle et en fonction des projets qu'il y a, il y a des projets qui sont très bien en indé, il y a des projets qui sont très bien en major. Mm-hmm. Enfin, il y a, on disait 120 000 titres qui sortent tous les jours.
Ça fait beaucoup.
Tous les goûts, il y en a pour toutes les structures. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, producteur phono, c'est pas évident. On n'a pas de nouvelles structures qui se créent. Enfin, pour moi, les derniers, c'est un peu entreprise, Yotanka ou je sais pas moi, et qui d'autre, microclimat, tu vois, mais c'est des structures qui ont 10 ans, quoi, déjà. Enfin, tu vois, aujourd'hui, faire du phono, c'est pas évident, quoi. Donc, voilà, les artistes aussi prennent prennent la main sur cette partie-là, puisque bah, justement, ils peuvent pas, enfin, tu vois, Universal peut pas prendre 150 artistes nouveaux chaque année, etc. Et donc, quand tu veux exister, bah, t'es obligé aussi de. C'est pour ça que je parlais de comptable et machin, mais il y a beaucoup d'artistes qui montent des structures, soit associatives, soit commerciales. Enfin voilà, moi j'étais avec Maïra ce matin. Elle a déjà deux structures, une pour ses éditions, une pour son. Enfin, et c'est et elle est pas bien vieille, quoi. Et pourtant, ils se structurent déjà beaucoup pour bah, continuer à faire évoluer leur projet, quoi.
On a bien compris les atouts que vous avez, ce que vous pouvez apporter aux artistes. J'imagine que, comme tu le disais, les places sont chères parce que vous en prenez 10 sur 600 propositions, 10 lauréats, voilà, sur 600 groupes qui se présentent ou artistes. Est-ce qu'il y a quand même d'autres dispositifs? Imaginons, moi je suis artiste, je me suis présenté, j'ai pas été pris, c'est pas foutu pour moi, alors je peux me représenter bien sûr. Est-ce qu'il y a encore d'autres alternatives? Peut-être pas seulement à l'échelle locale, j'en sais rien. Qu'est-ce qui existe encore d'autres structures? Ou alors ça va être compliqué là?
Bah, si tu loupes FGO, tu peux aller dans une SMAC.
Franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin de dispositifs, puisqu'en fait.
Il en manque, de dispositifs?
Il en manque. Moi, je trouve que ce qu'on a réussi à mettre en place à Paris, un lieu comme le nôtre, ça coûte cher. Heureusement, on est subventionné par la ville de Paris qui est. Pour le coup, je joue très bien le jeu. Ce serait bien que notre municipalité de gauche ou autre puisse aussi subventionner encore plus ce genre de mission, parce qu'en fait, c'est d'utilité publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, ça va être un artiste qui va bien. En fait, c'est quelqu'un qui va bien. Moi, ce que je dis, c'est là, on parle beaucoup de professionnalisation, mais moi, je m'en fous un peu de la professionnalisation. C'est-à-dire que je veux être en capacité de répondre à ça si c'est un souhait de l'artiste. Mais moi, si l'artiste est choisi dans la variation, je dis pas à mon jury, choisissez l'artiste de demain. Je m'en fous complètement. Je veux juste quelqu'un qui, dans un projet, s'inscrit dans un timing qui pourrait, où on pourra pouvoir l'aider. Parce qu'il n'est pas question non plus que cet artiste-là pique la place de quelqu'un qui pourrait avoir plus besoin. Donc c'est pour ça que nos délibérations sont très longues.
Ouais, c'est vachement dur de...
C'est très dur, mais l'idée, c'est... Après, on a des coups de cœur, on a d'autres pompes, parce que les 10 artistes, après, on peut, si, avec un comité de sélection... On peut repêcher des artistes. Enfin, l'idée, c'est d'aider le maximum possible. C'est-à-dire qu'en fait, FGO Barbara et 3 Baudets, en gros, chaque année, je pense qu'on aide à peu près 30 artistes de manière différente. Donc, du coup, mais le vrai truc, c'est que ces dispositifs-là sont ultra utiles pour faire plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le business. On peut en parler parce que ça a énormément changé. On a parlé au téléphone, mais moi, je parle toujours de Elvis Presley comme le premier artiste de musique actuelle. C'est-à-dire le schéma, quand Elvis Presley voulait, parce qu'en fait, sa finalité, c'était de jouer. Donc, son schéma pour pouvoir arriver à jouer dans des clubs plus grands et dans d'autres villes, ça passait par d'abord la production, c'est-à-dire qu'il devait enregistrer un disque, un morceau. Ce morceau devait passer en radio, et c'est la radio qui faisait après tout le reste.
Mais la finalité, qui permettait d'avoir d'autres lives, etc.
La finalité, c'est de jouer. Moi, ma génération, les années 90, grâce justement au rock alternatif qui ont su développer le live et les salles de concert, pour moi, la finalité de notre époque, c'était pas de jouer, parce que c'était très facile pour nous, de partir en tournée. Par contre, c'était de faire le CD. Nous, c'était l'album. La finalité de mon rêve, d'ailleurs, pourquoi j'ai fait une carrière solo, c'était pour avoir mes lettres d'or.
Un disque avec ton nom.
je savais que j'étais un peu pas fait pour ça, mais après,
deux albums quand même.
J'ai fait un premier album qui finalement bizarrement a marché, donc j'en ai fait un second. Bref, on va pas parler de moi, c'est pas très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y avait cette finalité-là qui a changé. Et par contre, c'est vrai que pour pouvoir signer une maison de disque et pour pouvoir faire ce CD-là, il fallait être opéré par la scène. Donc c'est vrai que grâce au SMAC, enfin Fait du Rock et toutes ces salles en région, on pouvait très facilement partir en tournée. Se démerder, faire du avec des potes, justement un groupe de Lyonnais. Bon, non, à Lyon, il n'y a pas vraiment de groupe. Mais du coup, à Bordeaux ou d'autres, on s'échangeait. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire. Et moi, sur mon premier disque, j'avais pas de tourneur et j'ai pu partir en tournée sans tourneur. Ça se faisait vraiment parce que t'as appelé les programmateurs. Il y avait vraiment ce truc-là. L'époque a vraiment changé. Et ce que je veux dire, c'est qu'après, donc, les années 2000, avec le piratage et compagnie, fait que l'objet ne vaut plus rien, parce qu'en fait, du coup, ça devient juste, la musique devient, l'album devient un outil de promotion. Donc, pour les nouveaux groupes, la finalité redevient de jouer. Pour se faire opérer, ils disaient, je vais jouer pour me faire opérer. Et pour pouvoir jouer.
D'accord.
Et donc, à l'époque, ça marchait aussi un petit peu, parce que même à Paris, il y avait de plus en plus de salles qui faisaient la programmation encore. Et donc, c'était un peu jouable. Et là, on est dans une époque où, en fait, on est revenu beaucoup plus à l'époque d'Alice Presley. C'est-à-dire qu'en gros, les groupes veulent jouer. Mais ils veulent toujours se faire opérer par le live, sauf que arriver sur un live aujourd'hui, t'as intérêt à être costaud, parce que on l'a vu avec le rap par exemple, le rap qui ont révolutionné le business on va pas se mentir, mais toujours pareil, parce qu'en fait, on n'a pas voulu deux à un moment donné, donc ils ont dit, c'est quoi, on va faire nous-mêmes. Ouais. Ils ont été génies, des génies là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, tous les contrats, tu peux le voir, tout le monde veut un contrat de distribution. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le contrat de distribution... Le contrat de distribution, merci de l'appareil dentaire, c'était le contrat du pauvre. C'était vraiment le contrat que personne ne voulait.
On précise juste, pour ceux qui connaissent pas très bien ça, c'est que le contrat historique, effectivement, c'est le contrat d'artiste, où on est accompagné sur la quasi-totalité de la carrière, à la fois sur l'enregistrement, sur la distribution derrière, sur la communication, etc. Là où aujourd'hui, effectivement, avec le contrat de distribution, on garde tout ça en interne avec ses propres équipes, et seulement on fait équipe avec une société externe quand on veut distribuer la musique, qu'elle se retrouve à la fois sur Internet, dans les magasins, etc.
Ouais, ce genre de choses. Et l'avantage de la distribuer aujourd'hui, telle qu'elle est, parce que c'est plus vraiment, enfin, c'est un peu, c'est plus une distrib pure, c'est un mix entre distrib et licence. Yes. C'est un peu compliqué. C'est des deals qui sont, selon l'importance de la personne qui est en face, c'est très différent. Mais c'est souvent des distrib avec des grosses avances. Donc, c'est-à-dire que l'avance que tu as sur un contrat de distrib où tu vas être majoritaire sur les royalties que tu vas toucher te permettent de payer le studio, les attachés de presse et compagnie. Mais du coup, ce schéma-là, c'est un peu instauré grâce au rap. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les artistes sont complètement perdus avec des modèles économiques qui fonctionnent, qu'ils voient tous les jours, notamment sur tout ce qui est rap et assimilé rap, parce que l'hyperpop, enfin, toutes les musiques, on va dire, autour de la pop musique, parce que le rap, finalement, quelque part, est soit la nouvelle chanson française, mais la nouvelle pop, finalement, parce que tout le monde écoute du rap. Et donc, en fait, ça a créé des choses où, on en a parlé tout à l'heure sur, finalement, quelqu'un qui commence la musique aujourd'hui à 18 ans, 19 ans, 20 ans, a toujours connu Internet, toujours connu les réseaux sociaux, enfin, en tout cas, les Facebook, Instagram, depuis que je pense qu'il est jeune adulte ou jeune, enfin, étudiant ou autre. Et il y a ce rapport-là au like, le rapport à tout de suite se filmer, se montrer et compagnie.
Enfin, à l'ego, hein.
À l'ego. Enfin, rappelez-vous, parce que autour de cette table, on n'est pas tout jeune.
À part lui, là.
À part Cédric, oui.
Je suis pas très jeune non plus. Je suis plus jeune que vous, certes, mais. Mais c'est pour vous dire à quel point vous êtes vieux.
Voilà, on écoutait, enfin, on a tous acheté des disques sans les avoir écoutés. Et moi, je me rappelle, sous blister, vite enlevé, avant de passer à table, de passer vite les 20 tracks pour voir si je me suis pas fait avoir. Et après, on lisait deux interviews dans la presse musicale. C'est important de parler de la presse, parce que justement, et le rapport des majors, c'est-à-dire que les majors, pendant l'ère de la major vraiment où elle a été puissante, c'était des gens où ils apportaient un savoir-faire déjà en termes de production, donc des réals, des ingénieurs son et compagnie.
Ils étaient prescripteurs aussi.
Du marketing et de la promo. Sauf qu'aujourd'hui, les médias, les nouveaux médias prescripteurs, c'est plus la presse traditionnelle, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux et compagnie. Donc tout ça, ça a complètement changé. Avec des gens, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des passionnés partout. Je veux dire, on les rencontre tout le temps, on travaille avec eux quotidiennement. C'est-à-dire que les éditeurs, une grosse partie, font un super boulot. C'est pareil pour les tourneurs. Je pense que les tourneurs aujourd'hui, ce sont des acteurs, ce sont des gens qui sont très très importants justement dans le développement du groupe. Mais tous ces métiers sont en train de changer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins d'argent. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, je reprends une stat de Spotify qui est pas tout à fait juste parce que je vais la simplifier. En gros, en 2020, il y a autant de groupes qui s'inscrivent sur cette plateforme tous les jours qu'en 2010 sur une année.
Oui, c'est ça.
Je sais pas si j'étais très clair.
Non, j'ai pas compris, pardon.
Bah, si.
En 2020.
Oui. Chaque jour.
Il y a autant de groupes qui s'inscrivent sur cette plateforme.
Que sur l'année 2010. Voilà.
Ouais, c'est fou.
Donc c'est énorme. Et en fait,
tu rajoutes à ça une stat, parce qu'on en parlait un tout petit peu avant, où c'est quasiment un titre sur quatre sur Spotify qui est jamais écouté. Ouais. Bon, on se rend compte qu'effectivement il y a une surproduction absolue et qu'il y a pas de la place pour tout le monde.
C'est ça. Et c'est pour ça que nous, je pense qu'il faut repositionner. En tout cas, moi, là où je me situe et avec Benjamin et Shana, j'aime bien les citer parce que c'est important. C'est avec eux qu'on travaille sur tous ces groupes là. Nous, c'est important qu'on replace ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super de faire de la musique. Ce que je dis, la première victoire, c'est de coucher ce qu'on a en tête et de le faire écouter à ses potes. C'est un truc qui est déjà super de le faire. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et en fait, on n'est pas tous obligés d'y arriver, de faire ce métier, parce que ça veut rien dire. Et on le voit, pour même dans le rap, et après, je lui lâche la parole, parce que je suis un gros barreur, j'avais prévenu. C'est-à-dire que même on le voit dans le rap. C'est-à-dire que le rap est un genre tellement moderne qu'il s'auto-démode en tous les 6 mois. Et donc, les artistes, en ce moment, tout le monde se jette sur un artiste. Il sort une mixtape, un album derrière. Il fait pas beaucoup de tournées parce que souvent il y a un petit débat sur les streams et compagnie. Donc, c'est rare de faire une tournée. Donc, c'est quand même la tournée qui aide à fidéliser un public et compagnie. Et souvent, bah, après le projet, donc 2 ans plus tard, il est plus là, en fait. Mmh. Et il y a un nouveau style de rap qui est arrivé avec une nouvelle méthode de faire. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'est la carrière? Et moi, j'ai la chance de côtoyer des artistes qui font des carrières. Et en fait, c'est ça devient l'espèce de Graal qui aujourd'hui.
On va revenir sur ces éléments-là parce qu'on aura une petite partie sur l'accompagnement artistique, l'accompagnement business. Mais j'ai envie de poser une question à Julien pour clore peut-être cette partie un peu sur les acteurs et ce que vous faites.
J'adore t'écouter.
Hein. En plus, ce qui est terrible, c'est que c'est Julien qui nous a conseillé de recevoir aussi.
Mais bien sûr.
Sayem. Et maintenant, Sayem lui laisse pas la parole. L'ingratitude, quoi.
Non, mais c'est ça.
C'est marrant parce qu'on vous écoute et on se dit quand même qu'il y a un aspect, on entend bienveillance, on entend un système quasi démocratique, voilà, de sélection avec un jury le plus complet possible, l'idée vraiment d'être à l'écoute des artistes, que chacun a sa chance aussi d'une certaine manière. Et pour autant, il y a un discours quand même qu'on entend souvent, que c'est pour réussir dans les domaines artistiques, mieux vaut avoir les connexions, le réseau. Alors, est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il y a une réalité aussi? Est-ce que vous-même, parfois, vous pouvez aussi être touché par le côté réseau? Bah, ah ouais, il y a quand même tel collègue qui m'a parlé de lui, je vais peut-être prêter une attention un peu plus particulière lorsqu'il va présenter sa candidature.
On est sursollicité, bien sûr, et puis on est un microcosme quand même, on se connaît tous, et donc il y en a plein qui te... Enfin, il y a plein de gens de la filière qui disent « Ah bah tiens, moi j'ai découvert machin, viens l'écouter, donc on va les voir avant qui postulent ou autre. » Après, moi, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un comité artistique indépendant, donc en fait, moi, je peux aller voir ce que je veux, mais finalement, les 20 artistes qu'on a chaque année, ils sont imposés à l'équipe, donc tu parles de ton équipe. Je vais aussi saluer Fabienne et Julie avec qui je travaille.
Moi aussi, je t'embrasse d'ailleurs.
Et donc, nous, en fait, tous les trois, on va bosser avec les artistes que le comité artistique va nous imposer, entre guillemets, quoi. Et donc, c'est peut-être pas forcément ce qu'on écoute. On a tous les trois, en plus, des goûts différents. Mm-hmm. Et après, enfin, c'est souvent l'humain qui fait la différence. Et justement, le fait de prendre le temps de se rencontrer, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, l'entourage qu'il peut y avoir. Mais après, bien sûr, c'est je connais machin, tu connais Bidule, on connaît Truc, et voilà, c'est Lionel Truc de l'ASSM, tu le connais?
Ben oui.
Voilà, c'était une blague de filière.
Très bien. Mais alors, toi, tu parles de, parce que donc pour FGO, c'est une session par an,
ouais.
600 candidats, 10 lauréats.
Hmm.
Pour
c'est deux
sessions, donc tous les 6 mois.
Ouais. Parce qu'en fait, on s'est dit, avant, c'était une seule session, et en fait, ça va tellement vite,
ouais.
que on s'est dit que c'était mieux pour essayer d'être dans le meilleur timing.
Je t'ai déjà entendu prendre l'exemple d'Edip de Préto pour ça, peut-être que tu peux nous raconter
oui,
ça.
Oui, bah, nous, Edip de Préto, quand il est arrivé au Fer, il avait pas sorti d'EP, rien en septembre. Il a sorti son EP en octobre, ça a cartonné. En même temps, il préparait le live, il préparait l'album et tout ça. En mars, il a sorti l'album, et en juin, il faisait un zénith. Et en fait, en l'espace de un an, ça a été en mode
oui. Il a été très très vite. Ouais.
Bah, ça a été hyper rapide. Et en fait,
alors que vous étiez dit, bah peut-être que ça aurait été bien de l'avoir 6 mois avant, limite,
oui,
pour l'accompagner.
C'est ça.
Quoi.
Bah, pour qu'il ait un peu plus de temps. Et en fait, le truc que moi j'aime pas trop et qu'on entend parfois, et c'est pour ça qu'on a créé Émergence et Expérience pour bien dissocier les deux.
Donc c'est les parcours que vous proposez d'accompagnement.
Ouais, exactement. Tout ça sur lefer.org. Allez voir. Mais le truc, c'est que on nous disait, bah pourquoi un tel il a le faire, il en a pas besoin. En fait, oui, t'as pas. Et peut-être il a pas besoin de financement et de bourse pour du mix, du machin, du truc, puisqu'il y a les partenaires. Mais par contre, comprendre les droits d'auteur, les droits voisins, qui on est en tant qu'auteur, compositeur, interprète, la filière, sa fiscalité. Mais laisse tomber, la fiscalité d'un artiste aujourd'hui. Ok, alors tu touches des droits d'auteur et si tu les mets en BNC jusqu'à 70 000 euros, tu as 34% d'abattement. Enfin, tous ces trucs-là, si personne te parle de ça, comment tu fais?
Ouais,
et personne n'a le temps, en fait. Donc nous, en fait, on essaye, en fait, dès qu'il passe la porte du bureau, de faire que quand ils repartent et on est enlevé une partie du disque dur de toutes ces choses qui les empêchent de créer, qui les empêchent. Enfin, tu vois, t'en as qui arrivent qui te parlent de Argy Carco, donc ça c'est la retraite. T'en as qui te parlent d'audience.
Il y en a qui te parlent de la retraite.
Mais bien sûr, mais en fait,
en même temps, c'est normal.
C'est des humains, en fait. C'est ça, c'est ce que disait Sayem. C'est que, en fait, chacun a ses problématiques. Alors, il y en a qui sont communes, mais après, chacun aussi voit des courriers arriver, la phobie administrative, le machin, le truc. Et aujourd'hui, quand t'es tout seul et que tu dois gérer tout ça, c'est pas évident, quoi.
Juste parce que j'avais lancé ça, on reviendra sur le côté business, préparer l'avenir et tout. Et notamment, je sais qu'un truc qui vous tient à cœur tous les deux, c'est de dire aussi, il y a l'artiste, mais le monde de la musique, c'est aussi plein de métiers, etc. Et peut-être qu'on peut vous ouvrir les yeux sur d'autres possibilités. Enfin bon, ça, je sais que c'est un point que je trouve très intéressant aussi.
Ah oui, la pure réactivité dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai des artistes qui sont passés par le dispositif. À un moment donné, c'était ça, mais après, tu les retrouves plus tard sur d'autres projets. Je prenais l'exemple de Pierre de Inuit, qui avait avait un groupe donc qui a eu le fer, qui venait de Nantes. Ils étaient chez Vagram. Ils ont eu la chance de pouvoir faire leur album avec Dan de The Do, Dan Levy de The Do. Il est arrivé en studio et pour lui ça a été la révélation. Il fait ouais, mais c'est ça que je veux faire en fait. Moi je veux réaliser, je veux être avec les artistes dans cette petite boîte et faire des choses. Mmh. Et c'est lui qui a fait l'album de Zao de Sagazan qui vient de sortir. Où on a eu un groupe qui s'appelle Aguarora. Il y a un petit moment, dedans il y avait trois personnes. Et ben maintenant Clément Roussel, il s'est spécialisé dans le mix et il y a plein de gens qui passent par lui. Ben, il est toujours guitariste et il fait des tournées avec plein d'artistes. Et je crois qu'il était avec Clara Luciani, si je dis pas de bêtises. Et ben, on a une autre artiste qui était dans ce projet-là qui s'appelle aujourd'hui November Ultra. Mmh. Et donc, ben, en fait, elle est arrivée à un moment donné. C'était ce projet-là. Et ça a eu une petite vie, comme dit Sayem. Des fois, c'est un EP, deux EP, un EP, un album. Enfin, et après, ça s'arrête parce qu'il n'y a peut-être pas les partenaires. C'est pas le bon moment. Elle a réussi, grâce à Universal Publishing, son éditeur, ouais, Tom, à faire plein de choses.
Tom a fait un super boulot.
Un super boulot.
Mais comme quoi,
qu'elle était top lineuse de malade. Et en fait, c'est une qualité qu'elle a développée pour pouvoir aussi continuer à rester dans la filière. Et au moment où elle a fait, OK, bah, moi, ça va être ça, mon projet. J'ai eu la chance de bosser avec plein de gens dans des séminaires organisés dans le monde parce qu'elle est envoyée un peu partout. Et c'est chouette, en fait, d'avoir aussi ce genre de parcours, en fait.
Et juste sur la question du réseau, etc. J'y reviens parce que c'est vraiment un truc qu'on entend souvent. C'est de dire, on va faire du cinéma, on va faire de la musique, etc. Il faut avoir des contacts, il faut connaître des gens, sinon t'y arrives pas. Pour toi, est-ce que c'est on se trompe? Est-ce qu'il y a une part de vrai, mais il faut voir aussi le positif derrière ça? C'est-à-dire que c'est aussi une compétence que de développer du réseau, par exemple?
Ouais, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est bien d'en avoir. Après, c'est pas que ça, hein. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il y a quand même plein d'artistes qui sont contactés en direct, en DM, sur les réseaux. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a des artistes, il y a un peu plein de typologies d'artistes, mais il y en a une, je dirais, l'artiste un peu filière, qui va grandir de façon organique et donc qui va passer par des dispositifs, des tremplins, des prix, qui va être repéré. Enfin, tu vois, à l'époque, Feu Chatterton, ils ont gagné le prix Chorus, ils ont gagné le prix des Inrock, ils ont eu le fer, les chantiers, les Inouïs, enfin, ils ont tout gagné. Et après, ils ont trouvé leur public et ils ont eu la carrière qu'ils ont aujourd'hui et c'est tant mieux. Et puis, t'en as qui passent par tout ça et qui arrivent pas et qui font autre chose. Et aujourd'hui, t'as quand même les artistes data aussi. Enfin, tu vois, les artistes qui...
Qu'est-ce que t'appelles des artistes data?
Bah, c'est des artistes qui ont déjà développé une grosse communauté sur les réseaux sociaux.
Donc, ils ont beaucoup d'abonnés.
Insta et tout ça. Et qui fait que dès qu'ils appuient sur un bouton pour un concert de 400 places, c'est rempli en quelques heures, etc. Et ils font gagner énormément de temps à la filière aussi pour se développer. Et donc, tout ça, bah, ça se monnaie. Enfin, c'est quand tu disais, les rappeurs, ils ont un peu changé le game et tout ça. Même jusqu'à la SACEM, ça a changé sur le dépôt, justement. Ils ont réussi ça, quoi. Alors que...
C'est quoi ça sème le changement qui...
Bah en fait en gros avant quand tu déposais des œuvres que ce soit sur les DRM ou les DEP donc c'est les deux droits. Enfin là ouais je vais faire non mais droit de reproduction mécanique et droit d'exploitation publique en gros quand tu faisais l'un c'était ça collait à l'autre. C'est ce qui fait que si t'avais 10 producteurs sur un truc et que tu disais d'un côté bah il y en a un qui a 50% et les autres ils ont que 10%, bah en fait non c'était pas ça la règle à la SACEM, c'était tout le monde à part égal. Sauf qu'aujourd'hui maintenant sur cet aspect-là, tu peux vraiment dissocier qui va être le lead sur telle prod et tout ça.
Ça crée vraiment des vrais problèmes.
Ah, j'imagine.
C'est la guerre.
Mais en même temps, faut s'adapter à la façon moderne de faire de la musique.
Le truc qui était compliqué, c'est que sur les DRM, du coup, tu pouvais mettre un pourcentage. Donc, tu pouvais dire au producteur ou au mec qui a participé, mais pas beaucoup, tu mettais juste 10%. Donc, tu disais OK, mais sauf que pour la SACEM, comme tu as très bien dit, eux, ils disaient ah, bah, donc il y a deux compositeurs, donc du coup, sur les DEP.
50-50.
Il faut savoir que les DEP, c'est 80% de
aujourd'hui. DRM. Ouais. D'accord. Alors qu'avant c'était les DRM, ouais. C'était la, donc, dès coup, que tu pressais les CD quoi.
D'accord. Ce qui était injuste c'est que t'as un mec qui a 10%, l'autre qui a 90%
sur de la part compo.
Parce que pareil c'est un peu technique. Pour les DEP c'est OK. Donc il y a deux compositeurs donc ils sont à part égale. Aujourd'hui c'est vrai que du coup on peut changer.
Mais sur ce qu'on racontait un peu sur le réseau etc. Ben, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi le réseau, enfin pour moi c'est un accélérateur de temps, donc c'est à dire que c'est... Moi, j'aime bien dire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon vieil âge et mon appareil dentaire, j'ai que des exemples de gens qui ont fini par arriver. C'est-à-dire toutes les personnes, et c'est vraiment, je dis pas ça avec une espèce de langue de bois ou je sais pas quoi, toutes les personnes qui ont su travailler à partir de, on parle de talent. Le talent pour moi c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à développer une technique par rapport à sa sensibilité. C'est ça pour moi le talent. C'est-à-dire que c'est, en fait, c'est tout le monde est sensible. Ma mère est sensible, ma voisine ou n'importe qui est sensible. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette sensibilité-là? Est-ce qu'on la met au service d'un travail, d'une passion, d'un hobby, d'une famille, peu importe. C'est quand tu développes quelque chose, donc dans l'art, hein, développer une technique qui est liée à ce que tu es toi et ta sensibilité, tu arrives à faire quelque chose que ne fait pas ton voisin. Ça ressemble peut-être, mais c'est ce que tu fais est unique. Donc, si tu t'accroches à ça, et que t'es patient, et que le gros problème, parce qu'on en parlait après, l'intermittence, qui pour moi est un vrai faux ami du musicien. C'est-à-dire que si tu prends le temps et que tu t'accroches à ça et que t'as pas peur de passer des caps, tu vas finir par y arriver. Parce qu'en fait, tu vas mettre des choses en place. Donc le réseau, il est nécessaire. Le réseau, c'est ce qui fait tout. On va pas se mentir, mais tu l'as pas. Mais si tu restes accroché, tu finiras par l'avoir, ce réseau. Mmh. Et c'est ce réseau qui va faire passer des trucs.
Mais donc, c'est une compétence aussi, ça, quand même, de savoir, ne serait-ce qu'être à l'aise avec les gens, pouvoir discuter, savoir comment se comporter vis-à-vis d'eux.
C'est pour ça qu'il y a un truc qui est horrible, c'est que tout le monde peut être connu, et en même temps, c'est difficile d'être connu. Le truc de, en fait, tout le monde peut y arriver, mais personne va y arriver de la même manière, ou en tout cas, c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a une sélection naturelle qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, qui arrêtent, qui à un moment donné fondent une famille ou reviennent à une réalité économique. C'est tellement un combat tous les jours, et vraiment, moi je me mets toujours du côté des artistes, c'est tellement dur, c'est tellement ingrat d'être en permanence jugé. Les endroits comme Bourges, c'est pour ça que nous les prépare énormément à Bourges, parce que c'est aussi bien d'y aller, on le conseille pour plein de raisons à certaines typologies d'artistes et pas forcément à tous et à toutes, mais dans la mesure du possible, on dit forcément, s'ils ont envie de se professionnaliser, de pouvoir jouer dans un endroit où il y a tous les programmateurs, bien sûr, il faut y aller. Par contre, on les prépare à ce qui va se passer. Et en effet, ce qu'a dit Julien est juste, c'est-à-dire que tu joues à 14h devant des pros qui sont en pleine digestion, qui reçoivent des textos, t'es où, et en fait, c'est ingrat. Et en fait, et tous les jours, on leur dit, fais comme ci, fais comme ça, avec des fois des DA ou des gens qui vont dire, ah, mais tiens, il y a tel succès sur November Ultra, en ce moment, on entend beaucoup parler, en disant, ah, mais faut faire comme elle, fais des TikTok à fond. En fait, comme les gens, aujourd'hui, en fait, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que, il y avait des modèles qui existait avant. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, déjà, t'arrivais avec un guitare-voix ou un piano-voix, t'avais un réal qui arrivait avec des musiciens, on injectait ça dans du marketing et de la promo, et franchement, si t'avais un titre qui passait en radio, ça t'assurait au moins un disque d'or et une tournée. Je parle de ça des années vraiment 90 et début 2000, tu vois.
Avant la crise du disque.
Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué, donc du coup, c'est-à-dire que plus personne a vraiment d'idées. Et c'est pas pour lasser la pierre aux maisons de disques ou aux partenaires, c'est-à-dire qu'en fait ça va trop vite. Tu peux plus, en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent, en fait, et quelque part je suis très content de ce qui arrive là, et je trouve qu'on est dans une bonne époque, c'est qu'en fait le pouvoir redevient aux artistes. C'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui peuvent créer les styles de demain, c'est eux qui peuvent tout faire, le maximum de choses. Et c'est vrai que le développement était des vrais sujets souvent. C'est-à-dire, est-ce qu'un label peut faire du développement? Pendant très souvent, moi j'ai toujours pensé que non. C'est-à-dire qu'un label, et bien, quand tu as un artiste qui est bien lancé, qui a déjà une communauté, peut prendre l'artiste, l'amener là, parce qu'il a des épaules financières et une épaule de...
Après, là, ça marche particulièrement pour les majors. Ça. Après, les labels, il y a aussi des petites structures.
Oui, les petites structures. Un label aujourd'hui qui a une marque, bon, d'Electro, il y a Headbanger, par exemple, qui est une vraie marque. Mais il y a Microclimat, par exemple, pareil. Je veux dire, aujourd'hui, avec le succès qu'a ce label, un artiste qui signe chez Microclimat fait un peu, alors, pas le même tampon que le faire, mais en tout cas, c'est un gage de qualité pour plein de gens et ça donne confiance.
Éclairochoc aussi. Éclairochoc.
Il y en a plusieurs, en fait, et c'est vrai que eux, ils souffrent en premier parce que l'indépendance, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Et heureusement que ces acteurs existent toujours. Parce que c'est souvent les premiers liens, et après, ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a des montages financiers faits avec les majors, que ce soit sur les parties éditoriales. Et en fait, finalement, je trouve que il y a eu un petit moment de fautaison, et là, je trouve que ça a épuré un peu des gens. Alors, pareil, sur le côté un peu, épuré, peut-être le mot, pas le mot le plus chic à employer. Mais en tout cas, il y a une sélection qui s'est faite où les gens qui sont encore là aujourd'hui dans l'industrie sont plutôt des gens qui sont bienveillants et qui ont envie de faire avancer les choses. Et c'est vrai que du coup, mais c'est l'artiste qui va, en fait, finalement, la maison de disques, pourquoi ça vaut, même si un Microclimat ou une major, alors les moyens sont pas les mêmes et compagnie, mais finalement,
ou Roche Musique, par exemple.
Par exemple.
On a reçu Césaire il y a pas si longtemps.
Mais par exemple. Mais ce qui va être important, c'est finalement, c'est l'artiste, mais même au niveau du réel. Moi, ce que je dis toujours aux artistes, si t'arrives et t'es pas allé au bout des choses, et tu vas dire, bah, comme souvent, parce qu'en fait, il y a une espèce, et moi je l'ai eu, en étant artiste, il y a une espèce de culte à l'homme idéal. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait arriver sur ton projet et qui va tout changer. Ça n'existe pas.
Oui, l'homme providentiel.
L'homme providentiel n'existe pas. Et donc, du coup, ce truc de. Je suis allé au bout de mes démons. Ah, mais il y a ce réal que j'aime bien, qui est un peu connu. Je le veux parce qu'il a fait deux succès.
Tout le monde veut son récrébine.
Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'en plus, si toi, t'as pas poussé les trucs au bout, et en plus, t'es influencé par le mec qui t'aime bien, ou la nana que t'aime bien, la femme que t'aime bien, du coup, tu vas déjà être influencé. C'est-à-dire qu'il va dire, je vais faire comme ça, tu vas dire, ah ouais, mais c'est lui qui a raison, ou c'est elle qui a raison, parce que du coup, elle sait de quoi elle parle.
Donc ça va dénaturer ton propre.
Et du coup, tu vas dire, ok, et deux mois après, tu vas dire, mais en fait, c'est pas mon disque, c'est son disque. Ou, pareil, tu vas dire, ben, en gros, tu vas tellement me donner confiance que, alors qu'en fait, moi, ce que je conseille souvent, c'est, va au bout de tout ce que tu peux être capable de faire. Et si, par exemple, c'est sur la basse, la ligne de basse, tu sais pas, tu vas pas prendre un réal, tu vas prendre juste un bassiste, que tu vas dire, mec, moi, je veux une basse comme ça, fais-moi cette basse-là. En fait, plus tu essayes des choses, plus tu vas loin dans tout ça, plus tu quadrilles, tu verrouilles ton projet. Mais c'est pareil pour l'image, c'est pareil pour tes clips, c'est pareil
ouais,
pour...
Ouais, mais c'est marrant parce que ça va un peu à rebours de l'image qu'on se fait, justement, de l'artiste façonné par son équipe, façonné par sa maison de disque, tu vois, genre, on sort Céline Dion du caniveau, ouais, elle ressemble à que dalle, et puis paf, on l'emmène chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, ouais, on change son style.
Ça, vraiment, c'est fini aujourd'hui. C'est terminé, ça. Ouais, c'est fini.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
C'est pour ça que, enfin, sur le côté, justement, en fait, aussi, et pour certaines esthétiques, c'est pas forcément le cas, mais il y a la volonté de garder le master. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent pas être emmerdés sur l'artistique. Parce que quand tu signais en contrat d'artiste, t'avais un DA qui était là et qui, justement, comme tu dis,
ouais,
là,
tu veux changer.
Dire, voilà. Un petit peu.
Je précise.
J'ai déjà eu des artistes, moi, qui ont été en studio où le mec dit, bon, bah, laisse tomber, reviens, on enregistrera tes voix, et puis voilà.
Pour expliciter le côté juste garder le master, en fait, c'est que l'artiste soit son propre producteur avec ses propres moyens d'enregistrement.
En licence ou en distribution, et puis
il a l'intégralité des droits sur son enregistrement, alors que ça peut pas être le cas s'il le fait avec.
C'est ça. Et en fait, la raison première de ça, c'est en fait l'artistique. C'est parce que c'est pas pour forcément gagner forcément plus d'argent. C'est vraiment la première raison, c'est celle-là. Et il y a des artistes qui peuvent être en licence ou en distribution, mais derrière, ça veut dire qu'il faut une structuration, etc. Et t'en as qui sont pas du tout faits pour ça, quoi. Et pour qui le contrat d'artiste reste quand même une bonne solution.
Oui,
mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même les nouvelles générations, quand ils voient les grands frères faire que des licences et des machins, ils savent même plus que le contrat d'artiste existe, quoi. Alors que ça a été ça pendant de nombreuses années.
Mais en fait, c'est pas antithétique, mais c'est marrant parce que d'un côté vous dites il faut que l'artiste arrive avec sa vision du truc, etc. Mais d'un autre côté vous dites aussi quand l'artiste il pousse la porte de chez nous, en fait il sait pas forcément trop où il va, tu vois. Donc ça veut dire
c'est là notre rôle, il est là pour moi.
Ouais mais alors
on
du
est,
coup
on n'est pas au même endroit aussi.
Oui, ouais, non,
enfin,
non,
mais dans la fusée de l'accompagnement, on est plutôt
ouais,
en haut,
vous êtes
on va
plus
dire.
Haut, ouais.
Voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est que l'artiste peut très bien avoir sa proposition artistique quand il pousse la porte de FGO et puis se rendre compte qu'en fait il pourrait être autre chose à force de discuter avec vous, de machin, et donc muter même, ce qui fait que...
Mais complètement.
Ok, donc ça arrive qu'à la sortie des... Toi, c'est un an d'accompagnement. Ouais. Ça arrive qu'en fait, à la fin de l'année, l'artiste en question, ça n'a plus rien à voir avec ce pour quoi il était rentré.
Bien sûr.
D'accord, ok.
En fait, le rôle, c'est pour ça que je dis, le rôle, il est vachement important. Notre rôle, il est là pour apporter des moments safe pour les artistes pour qu'ils puissent essayer des choses. Moi, ce que je dis toujours d'accord. aux artistes, c'est qu'il y a votre temps à vous, en dehors de FGO Barbara et des Trois Baudets, et il y a le temps qu'on va faire ici. Et c'est-à-dire, par exemple, le studio, tout, en fait, tout est une espèce de monde parallèle. C'est-à-dire que quand tu vas à un studio que tu payes sur ton temps à toi, tu vas très vite. Souvent, t'as un ingénieur qui t'a mis un micro, qui t'impose un micro. Tu vas dire, oh, ben moi, ok, t'as pas le temps, tu payes ta journée chère, donc tu vas vite, tu fais plus de pré-prod comme on faisait nous à l'époque.
Ouais.
Nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, nous, on va d'abord tester tous les micros.
D'accord. Ouais.
Voir quel est le micro qui correspond le mieux à la fréquence de la voix, les préamplis, voir les différentes techniques. En fait, c'est poser le truc. Et c'est très important. Parce
ça,
qu'en
c'est,
fait,
ça, c'est super intéressant.
C'est là où, en gros, tu aides le projet. Et quand tu arrives à un artiste de dire, voilà, le son, c'est ça, ça délie tout le reste. C'est-à-dire que du coup, par rapport à son son-là, bah, du coup, je vois mieux ce que je vais faire en termes d'image, je vois mieux ce que je vais faire dans mon clip ou en photoshoot et compagnie.
Promis, avant de rester vraiment sur le pur artistique, dernière question vraiment sur cet élément-là, c'est juste, on disait qu'il y avait quand même pas trop d'inégalités, en tout cas on essaie de faire attention, alors certains peuvent avoir un peu de réseau, ça peut aider, etc., mais globalement, voilà, il y a des jurys, etc., on examine les dossiers, chacun est logé à la même enseigne, est-ce qu'il n'y a pas quand même une inégalité de territoire ? Parce que ça, on n'en a pas parlé. C'est alors FGO, c'est la ville de Paris. Donc déjà, je pense que peut-être
et
la ville
que
de Paris,
hein, pas Créteil. Je
mais peut-être un peu plus de fric dans ce domaine-là, parce qu'en plus, c'est un rayonnement culturel important pour cette ville, je pense. Est-ce que, en fonction de là où on est né ou là où on habite, on n'a quand même pas les mêmes chances pour se faire accompagner aussi?
Donc être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. C'est ce que tu es en train de dire.
Alors, je sais pas. Peut-être que Julien, toi, t'as une vision, parce que vous travaillez à l'échelle nationale.
Enfin, franchement, il y a.
Peut-être que je me trompe. Je pose la question.
Enfin, on a vraiment des groupes qui viennent de partout, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, quoi.
Après, il y a deux étapes. Moi, honnêtement, je vais pas toujours ramener tout à moi, mais je suis obligé de parler de mon expérience. S'il y avait pas le Rio Grande ou le Bikini dans ma région, j'aurais rien fait. Ouais. C'est une histoire pareil de timing. C'est-à-dire que je pense qu'en région, le boulot qu'ils font est phénoménal. Je parle notamment même le réseau. Donc le réseau, c'est le nom en Corse des personnes qui s'occupent de l'accompagnement en Corse, qui est donc encore un autre particularité parce que c'est insulaire et en plus ils ont toute une culture liée à la musique corse et compagnie, donc c'est difficile, c'est-à-dire que le jeune corse, en fait, soit il fait la musique corse et il est sûr de cartonner, mais ouais, de faire que le tour de la Corse.
S'il veut faire du rap, il peut pas jouer au continent. Ouais.
Et s'il fait autre chose que de la musique corse, ben en fait, il y a énormément d'acteurs comme Anaïs Monet, qui, avec le Belaboum, le festival qu'ils font à Bastia, qui est super. Mais ce que je veux dire, c'est que les territoires, les acteurs du territoire font un super boulot.
Mais ça teinte quand même ton style musical.
Mais non. Regarde, Orelsan avec Caen et le Cargo. Ouais. Si t'as pas le Cargo pour Orelsan, Enfin, tu vois.
Et c'est en deux temps, parce qu'après, pour beaucoup, en fait, déjà, les premiers acteurs, et c'est là où tu fais tes premières armes, c'est en région, là où t'as grandi, et les premières SMAC qui t'aident. Et après, de toute façon, t'as le relais et Paris. De toute façon, et c'est pour ça qu'on, la blague avec Survariation et qu'il y a des artistes qui sont pas que de Paris ou des natifs de Paris. C'est parce qu'en fait, nous, on travaille sur les Parisiens, donc des gens qui habitent à Paris, mais finalement, à chaque fois, chaque année, dans Variation, je pense que je dois avoir deux vraiment Parisiens. Ouais. On est une capitale. Ouais.
Et est-ce que quand même, même quand on est dans un milieu rural, par exemple, en fait, on sait que dans la ville un peu importante, pas très loin de chez moi, il y aura une SMAC, globalement?
Oui. Regarde Camini, par exemple.
Il y en a une centaine, je crois, entre 90 et 100 SMAC un peu partout. Enfin, tu vois, donc non, on a vraiment une chance d'avoir...
En même temps, Sayem disait qu'il y a quand même quelques manques aussi, non?
T'es pas d'accord?
Non, des manques de dispositifs, je sais pas. Il y a des manques de. En fait, je pense qu'on est à un endroit. En tout cas, nous le faire sur la structuration et justement sur le côté producteur phono et tout. Je pense qu'aujourd'hui, on est au bon endroit. C'est-à-dire que nous, il y a certains de financeurs qui disent, réinventez-vous, la filière évolue et tout ça. Mais en fait, on est au quotidien avec les artistes. Donc, en fait, ce que je faisais moi il y a 10 ans quand je suis arrivé, et ce que je fais aujourd'hui, ça a plus rien à voir. Et en fait, on est tout le temps au quotidien avec eux. Donc, moi, c'est surtout aujourd'hui, comme tu disais, il faut. C'est cool, la mairie de Paris, elle met des sous et tout. Il faut vraiment qu'il y ait de l'argent public et qu'il y ait une vraie politique claire, nette et précise de où va l'émergence, quoi. Parce que c'est, on va pas se mentir, c'est aussi compliqué aujourd'hui, que ce soit pour les SMAC, les réseaux régionaux, les dispositifs et tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent et on a besoin aussi de pouvoir fonctionner et accompagner.
Typiquement, une structure aussi importante que le FER, par exemple, est-ce que des fois, au niveau, parce que vous avez des financements publics, ça peut être compliqué, ça peut être remis en cause de temps en temps, ça peut...
On est tout le temps, on a des CPO, donc c'est des conventions pluriannuelles d'objectifs avec le ministère de la Culture. Nous, on est en direct avec le ministère de la Culture, on n'est pas en DRAC, on est vraiment avec la DGCA, Direction Générale.
T'as vu comme c'est technique, le mec qui nous a remis l'acronyme.
On est dans un milieu d'acronyme. Nous, on dépend de la DGCA, Direction Générale de la Création Artistique, qui finance la moitié de notre budget depuis qu'ils nous ont demandé d'être créés il y a 35 ans. Chaque année, ils nous demandent justement un peu ce qu'on a fait, des objectifs quantitatifs, qualitatifs et tout ça. Et
puis, se battre encore aujourd'hui, défendre son bout de gras.
Peut-être même encore plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'il y a quand même moins d'argent dans la filière aussi. Il y a eu l'arrêt RAP en septembre 2020. C'est RAAP. C'est une décision de la Cour européenne de justice sur les droits voisins, où en fait, on gardait l'équivalent de 25 millions chaque année d'irrépartissables, parce qu'il n'y a pas de réciprocité avec les droits voisins américains. Et donc ça, bim, c'est 25 millions en moins. On s'est tapé la pandémie. La copie privée, il n'y a pas des bonnes... Et nous, on est beaucoup financés par la copie privée. La copie privée, en fait, c'est dès que vous achetez un ordinateur, un téléphone...
Ah, donc c'est à vous que ça va ?
25% frère.
Ah putain, parce que je me dis mais qu'est-ce que j'en ai à foutre.
Il y a 75% pour les ayants droit et 25% pour tout ce qui est justement
donc c'est la taxe qu'on paye dès qu'on achète un truc avec un disque dur.
Ouais, je crois qu'un smartphone qui a tant de gigas, je crois que t'as 14 euros, tu vois. Ouais. Et donc ça plus ça, le reconditionné c'est rentré dedans, le cloud je crois est en train de rentrer dedans, mais n'empêche que bah on vend, c'est plus les CD vierges, c'est plus les clés USB et tout ça. Et aujourd'hui, bah, la copie privée apparemment va aller moins bien, donc les financements pour des structures comme le Fer ou autres, bah, c'est un peu plus compliqué. Puis il y a des nouveaux acteurs, il faut les financer. Quand tu disais le rap a dit bah, personne veut de nous et tout ça, même aux Victoires de la Musique, ils ont créé les Flammes pour pouvoir avoir aussi leur moment.
C'est pas lié aux Victoires de la Musique, les Flammes, hein.
Mais non, c'est parce que justement, quand t'as les Victoires de la Musique,
oui, c'était musique urbaine.
Un mec qui fait
ils font leur truc à eux maintenant,
du hip-hop qui est là, et alors que tu devrais en avoir 10, au bout d'un moment, les mecs ils font bah attendez, tu regardes le top 200, tu regardes les streams, tu regardes les salles qui sont remplies.
Ils font leur propre compétition.
Bah maintenant, on va le faire nous, et puis bah il y a plein de partenaires qui sont là pour le faire, quoi.
Ouais.
Donc c'est
sur le manque. Moi, je parlais surtout du fait la logique. Des SMAC pendant très longtemps, ça a été de son de la scène. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont arrivés avec des salles de concert. Donc, les questions du live sont très fidèles et on en parle beaucoup. Mais justement, le manque pour moi, c'est cet aspect studio, encadrement autour des contrats et des. C'est ça qui me manque un petit peu. Et après, je pense que nos structures doivent aussi évoluer. Je sais que nous, moi, il n'y a pas une année. Enfin, chaque année, en fait, je rajoute des choses et je corrige des choses par rapport à la nouveauté, au nouveau profil des artistes et compagnie. Par exemple, nous, on a créé un festival qui s'appelle Ici Demain Festival, d'ailleurs, petite pub qui sera à fin novembre, 22-24 novembre.
Où ça?
Qui a vu Joe Barbara.
Ah bah oui, normal.
Comme de par hasard.
Et pareil, pourquoi on a créé un festival? C'est parce qu'en fait, on s'est dit souvent, et parce qu'on a un côté un peu militant, de se dire que tous les festivals qui sont sur l'émergence, en fait, souvent, c'est des conditions un peu dures. Et donc, on avait envie de. Déjà, à Paris, il n'y avait pas. Mmh. Il y a le MAMA.
Ah, bah oui, d'ailleurs.
Un gros marché.
Tu as participé.
Absolument.
Mais du coup, on voulait faire un festival avec. Au centre, en fait, on pouvait aider tous les artistes programmés. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on propose, et c'est qu'on le propose, il n'y a aucune obligation à tous les artistes qui vont être programmés sur le festival de pouvoir répéter. Déjà, d'une manière autonome. Donc, même s'ils n'ont pas envie de voir nos tronches et mon super accent du Sud avec un appareil dentaire, ils peuvent ne pas me voir et juste répéter gratuitement pour préparer le concert. Et en plus, s'ils veulent bien me voir parce qu'ils me trouvent sympathique ou après votre visionnage nous rencontrer, on propose justement tout le service qu'on a sur nos artistes qu'on accompagne, qu'on soutient. Ils peuvent, donc du coup, en fait, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir promettre aux artistes qui vont faire sans doute leur première, deuxième ou troisième scène, d'avoir pu travailler dans le même lieu où ils vont jouer tout le concert.
Et donc ça, pour être à l'aise, en fait.
Voilà. Et ça, c'est pour nous, c'est important. Et je pense que c'est aussi notre devoir de, dans notre manière d'aider les groupes, de s'adapter aussi par rapport à.
On se réinvente tout le temps, on se réinvente tout le temps.
Alors, rentrons vraiment dans la partie accompagnement artistique.
Soutien,
c'est vrai, il aime pas trop.
Non, je rigole.
Sur l'aspect purement artistique, commençons peut-être sur le faire, parce que t'allais prendre la parole, Julien. Qu'est-ce que vous proposez vraiment, pas le côté business, etc., sur le côté artistique?
Artistique, nous, il y a déjà une bourse de 6000 euros pour les lauréats qui peuvent utiliser comme ils veulent. Et souvent, ça va aussi pour des mix, ça va pour du mastering, ou après, ça peut être de l'attaché de presse, mais là, c'est business. Mais bref, c'est de l'achat de matériel, enfin, tu vois, c'est hyper important. On leur fait des ears, on leur fait des bouchons auditifs moulés, on leur fait des audiogrammes. Enfin, tu vois, c'est con, mais il y a quand même plein d'artistes qui n'ont jamais testé leur audition alors que c'est leur outil de travail numéro. Sur l'artistique, on leur propose de pouvoir faire des résidences justement dans des lieux. Je te disais, il y a Charlie Motto là qui était à l'usine à chapeau à Rambouillet. On a No Terror in the Bang, un groupe de métal qui est de Rouen qui avait jamais pu passer les portes du 106 chez eux et qui vont faire une résidence là au mois d'octobre. On bosse avec Bénédicte Schmidt qui est une artiste, une réale qui fait des sessions sac à dos. Elle peut venir, on l'a fait avec Requin Chagrin au Mannequins. Un Gesson, elle arrive en fin de résidence avec de quoi enregistrer 64 pistes. Elle prend tout ça et après ils vont faire des écoutes pour essayer de peaufiner justement, se dire bah là les arrangements live ils sont pas terribles, la setlist ceci cela. On va monter monter l'an prochain justement aussi un séminaire, parce qu'on aime bien bosser en séminaire pour réunir les artistes. Enfin, tu parlais de promo. En tout cas, ouais, nous, on trouve que les artistes sont trop isolés, et donc dès qu'on peut, on les réunit ensemble. On fait des, là, tu vois, la semaine prochaine, on se réunit. Ils vont tous être autour de la table et on va tous aller. Qu'est-ce que tu veux écouter? Qu'est-ce que tu veux faire montrer comme son? Et puis on va tous faire ça. Et après, on a tout un séminaire aussi d'une semaine où ils vont être sur la fiscalité, le machin, le truc. Après, on va aller à Nancy à l'autre canal pour faire un séminaire artistique, et après ils vont jouer au Café de la Danse. Bref, on essaye le plus possible de les réunir et de faire en sorte que ils soient dans les meilleures conditions pour échanger et travailler ensemble. Après, nous, on a des formations aussi. On se travaille avec le studio des variétés qui malheureusement a fermé, mais là on a pris quelqu'un de Trampo, qui est une structure à Nantes qui s'appelle Tiffen et qui est sur la formation. Et donc sur l'artistique, c'est savoir, bah, est-ce que tu as eu 48 cachets en 3 ans et que tu as des droits AFDAS pour pouvoir faire des formations? Est-ce que tu es du régime général et donc toi c'est un CPF? Combien tu as d'argent? Où est-ce que tu peux aller quand tu habites à Metz ou que tu habites à Toulouse pour pouvoir faire des cours de chant, des cours de MAO, des choses comme ça?
Donc là, c'est de l'administratif aussi.
C'est pas de l'administratif. Là, on est vraiment sur. Tu veux dire les formations qu'ils peuvent avoir avec.
En fait, ouais, c'est savoir ce à quoi ils ont droit.
Oui, parce qu'en fait, tous ces trucs-là, ils savent pas. Enfin, y a même des artistes, ils ont un numéro de congé spectacle, mais ils savent pas à quoi correspondent les congés spectacles. Ou t'as des légendes qui disent, bah oui, sur mes programmes types à la SACEM, je mets le maximum de titres, comme ça j'aurai plus d'argent. En fait, tous ces espèces de trucs, des légendes urbaines de filière, on est là aussi pour leur dire.
C'est pas du tout proportionnel par rapport on a une autorité du c'est fou des fois quand tu te rends compte de la personne qui est déjà entourée, qui déjà là-haut, tu dis bah c'est bon, lui il est baqué de partout, et en fait des fois
c'est hallucinant.
Donc ça, ce qui fait, et j'expliquerai après nous ce qu'on fait, c'est très important, tous ces aspects là
en fait, c'est comprendre, enfin c'est n'importe quel métier, je veux dire t'es jardinier, t'es informaticien ou je sais pas quoi, tu connais les tenants aboutissants, les prestataires, les clients, les machins, l'environnement dans lequel t'évolues, t'es auteur, compositeur, interprète et de plus en plus producteur phono. Bah en fait t'as plein de choses à apprendre et à comprendre et à appréhender, et donc nous c'est ce temps là qu'on prend qui est hyper important, et c'est pas, on leur demande pas un master 2 pendant 6 mois être derrière une table sur une chaise et tout ça quoi, et c'est en mode cool, en mode séminaire avec pas des coachs, des experts de chaque domaine, enfin non mais franchement
des soutiens.
Oui, mais tu vois les droits d'auteur, les droits voisins, enfin les droits voisins c'est quand même hyper complexe à appréhender, et quand t'es producteur phono, bah t'as à la fois des droits voisins en tant que producteur photographique, mais et tu dois faire le bon taf pour que derrière les interprètes aussi puissent avoir leur rémunération, enfin bref, on est dans des trucs un peu techniques, désolé, mais en fait tout ça est hyper lié, et donc pour l'artistique on bosse aussi pour les aider avec des distribs physiques, des distribs digitales s'ils ont besoin, enfin on les aide en fait, moi j'aime bien le terme de facilitateur en fait, on essaye de choper justement les problématiques de chacun. Et on essaye de trouver les bons partenaires, parce que c'est pas Julie, Fabienne et moi qui pouvons tout faire. Mmh. Mais par contre, on a la chance de bosser avec énormément de structures autour de nous pour pouvoir avoir un accompagnement hyper complet. Mais ça va jusqu'à, on bosse avec Culture Paye pour pouvoir les aider à faire des fiches de paye quand ils doivent se faire des cachets pour pouvoir déposer des subventions, etc. Et quand tu dis le réseau, le machin, bah nous, comme on est financé par la SACEM, la DAMI et tout ça, et que derrière, c'est aussi des aides qu'il peut y avoir avec les autoprods à la SACEM, les accompagnements de carrière ou autres. On connaît les personnes qui sont derrière tous ces acronymes, et en fait l'idée c'est aussi de les connecter avec nos artistes de façon à ce que on aide aussi les gens et les institutionnels à savoir quels sont les artistes qui sont accompagnés, que ce soit par Variation, par Le Chantier, par les Inouïs. L'an dernier justement, tu parlais on parle de temps, et en fait le ministère de la Culture et le CNM, le Centre National de la Musique, qui est un peu le gros bateau paquebot de la filière, qui a été créé en janvier 2020 et qui n'est pas encore tout à fait stable.
Sur le modèle du CNC pour le cinéma, ils ont voulu faire pareil pour la musique.
Vivement qu'on ait 70 ans de vie du CNM comme le CNC, mais ils nous ont donné des enveloppes pour pouvoir travailler sur du post-accompagnement, parce que c'est ce que dit Saïm, c'est le début est important, le milieu, tout le temps. Et il y a des artistes qui ont la galette complète des partenaires et qui vont vivre un EP, un album fabuleux, et puis derrière, ça fait plouf, et il n'y a plus personne, et comment on fait pour rebondir, etc. Et donc là, c'est 6 dispositifs nationaux qui sont les Inouïs du Printemps de Bourges, Le Chantier des Franco, Buzz Booster pour le hip-hop, Trampo à Nantes, Le Fer, et puis AJC avec Jazz Migration, pour avoir aussi des esthétiques bien différentes. Mmh. On a deux lauréates qui sont passées par nos dispositifs il y a quelques années, qui re-rentrent dans un parcours où on fait de l'immersion en festival, où t'as des mecs de hip-hop qui vont aller à Jazz Sous les Pommiers, où là, cette année, c'était la thématique, c'était musique et images. Donc, on a été aux Sœurs Jumelles aussi à Rochefort, qui est un festival qui est vraiment dédié à ça. On a fait une semaine d'artistique à Nantes où on les a tous mélangés.
Mais ça, c'était des gens qui étaient déjà passés.
Ouais, ouais, bien sûr. D'accord. T'as eu des artistes comme le Prince Miaou qui a eu le
frère, Prince Miaou, ouais,
qui est une super modélisa, ouais, qui est une super artiste et qui a eu le faire, je pense il y a bien 10 ou 12 ans et qui est, enfin voilà. Et donc en fait l'idée c'est d'essayer à chaque fois de savoir à quel endroit on peut être utile. Et c'est vrai qu'on est tous beaucoup dans l'émergence et dans les nouveaux projets. Mais après moi c'est pour ça que le faire un jour faire toujours c'est important et que ce genre de dispositif aussi, enfin pas de dispositif de parcours, sont importants parce que il y a plein de marches à gravir et puis des fois t'en gravis 3-4 mais tu vas redescendre de 2 donc il faut redonner et comme disait Saïm c'est vraiment dur, enfin moi j'ai un respect absolu pour ces hommes et ces femmes qui veulent être artistes et qui se battent justement dans cette mondialisation, enfin t'imagines quand même, enfin on le disait, je sais plus si on le disait dans avant ou pendant qu'on enregistrait, mais tu sors avec moins de 5 balles, ton titre, t'es écouté dans le monde entier, quoi. C'est quand même assez dingo, quoi. Mmh.
Toi, Saïm, justement, avec FGO, Barbara, les trois Baudets, vous arrivez un peu en amont, on l'a expliqué plus d'une fois avant le faire. J'imagine que vous, le faire, vraiment, en général, il y a une forme de maturité artistique, quand même, des artistes. Après, c'est tous les à côté qui sont très compliqués.
Ouais,
vous, par contre, il n'y a pas encore la maturité artistique, souvent, j'imagine.
Bah, ça dépend. Par exemple, là, un exemple, on a deux artistes sur... cette année sur la section, Mairo et Slug et Sénard, qui y a tout. Ouais. Ben, surtout pour Mairo, qui là est vraiment un artiste rap confirmé, enfin qui est déjà un petit génie. Et Slug et Sénard, pareil. Donc Slug et Sénard, ils sont là, ils travaillent sur le show, donc ils ont l'aspect live à bosser, mais ils ont un show ultra bien rodé. Donc il y a un peu tous les profils. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on travaille chez vous justement? Tu parles de show, tu parles de...
Alors déjà, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'aime bien. Je me nourris par rapport à ce que je suis. Enfin, c'est pour ça que je pense que de toute façon, on parlait tout à l'heure de Claude ou de toi. Je pense qu'on type nos dispositifs. Moi, je me nourris de ce que je suis et de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été à leur place. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir faire des albums, des tournées, une musique de film, aller à Cannes, tous ces trucs un peu de paillettes qui m'ont appris tellement de choses. J'ai pu travailler sur du management avec 5 artistes sur lesquels j'ai pu négocier leur carrière. J'ai pu travailler avec tous les majors, les labels indépendants. Je manage aussi encore un artiste qui s'appelle Molécule, qui fait un Olympia le 6 février.
Allez, c'est passé,
il l'a placé.
Mais du coup, non, mais c'est-à-dire que ce que j'ai vécu en tant qu'artiste, ce que je vis aujourd'hui en tant que manager, ce que je fais en tant que photographe, mais du coup aussi donc de fréquenter quelqu'un comme Julien Doré et tous les environnements proches, donc que ce soit Clara Luciani, que ce soit Angèle, qui sont dans ce prisme-là, de pouvoir côtoyer avec leurs managers ou managers respectifs, me font avancer sur un peu toutes les strates. C'est-à-dire qu'en gros, du simple développement, de la psychologie presque de qu'est-ce qu'un artiste, a au développement dans des niches ou dans des choses beaucoup plus pop et mainstream. Et en fait, c'est ça qui est vachement important. Et moi, ce que je voulais apporter, c'est tout ça. C'est en gros pouvoir... Et c'est un enjeu. Et franchement, je prends ça vraiment... Là, je vais en rendre un petit peu, mais je prends ça très, très, très au sérieux. Et je me suis toujours promis à moi-même que le jour où je devenais ringard ou que je devenais en fait dépassé, il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait... Malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est vrai que les artistes nous écoutent un peu comme si on avait été parole d'évangile, alors qu'en fait, non, je leur dis surtout pas. En fait, moi, ce que je vous explique, c'est alors j'essaye de croiser avec tous les artistes que j'ai cités une façon de faire, en tout cas, comprendre mieux la société dans laquelle on est et
oui,
par rapport
ça,
à l'artistique.
Ça te nourrit aussi, toi.
Mais voilà, mais par contre, je dis souvent, c'est les artistes. Donc nous, ce qu'on m'a apporté, c'est vraiment les espaces pour pouvoir prendre le temps et rencontrer plein de gens, et que des gens qui vont souvent, c'est fou, mais par exemple on est dans une société qui est tellement sexiste qui renvoie une image par exemple aux femmes qui est tellement particulière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'artistes qui sont sur la sexualisation de leur corps. C'est catastrophique parce qu'en fait une femme peut faire ce qu'elle veut, en fait elle peut s'habiller comme elle a envie, elle peut faire le comportement qu'elle veut, donc nous on n'est pas sur le comportement de ce qu'elle peut faire ou pas, c'est plutôt de déjouer la norme de la société qui dirait à cette femme de se sexualiser pour plaire ou pour gagner des likes. Et en fait, il faut faire attention aussi à ça. Et ça nous arrive, pas chaque année, mais ça nous arrive aussi de se rendre compte que, ben ouais, on a un cas de figure où, parce que, et c'est, en plus, ça va plus loin, c'est que c'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire ça. C'est pas un DA ou un...
C'est intégré, en fait.
C'est elle, elle a intégré elle-même. Et en fait, quand tu la rassures sur, en fait, et parce que, et je suis pas le seul, hein, genre, on a beaucoup d'intervenantes aussi. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai une petite dédicace à Virginia qui est sur l'aspect du corps, qui l'aspect sur tout ça, qui aide énormément à débloquer les paroles et qui permet en fait de pouvoir rassurer les artistes sur ce que je disais tout à l'heure, qui elles sont, ce qu'elles ont envie de faire et comment elles veulent le faire. Et ce truc-là, nous, ça peut passer que par du temps et par des ateliers. Donc ça passe de travailler en salle de danse autour du corps, de la posture, en studio d'enregistrement pour tester plein de choses. En répétition pour justement essayer beaucoup de choses. On passe aussi par la formation qui est ultra nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, moi, vous avez compris, je suis très sur le studio d'enregistrement, mais il y a énormément de formations qui existent, par exemple, en non-mixité, pour pouvoir donner la possibilité aux femmes artistes d'être autonomes et du coup de moins risquer d'être avec des prédateurs ou des gens avec... qui peuvent avoir des problèmes. Et en gros, et souvent donc il y a beaucoup de formations qui sont liées à comment je produis, comment je compose et compagnie, mais souvent très peu par rapport au métier d'ingénieur du son. Alors que c'est capital, c'est quelqu'un qui, comme je disais alors, souvent une meuf, on va la considérer, enfin certaines personnes en tout cas peuvent considérer les femmes comme en disant le matos elle y connaît rien. Je vais mettre ce micro parce que c'est ce qui me fait plaisir. Elle va arriver à vouloir dire non, mais je veux un autre micro. Il va dire non, mais toi, tu sais pas, c'est ce micro. En fait, le test des micros qu'on a fait tout à l'heure, par exemple, c'est ça. Ça leur permet, donc aux femmes, mais pas qu'aux femmes, mais aussi aux hommes, de pouvoir se dire, en fait, je sais le matos que je veux, je connais ton vocabulaire et je sais même faire. Si je suis là, j'ai besoin de toi parce que je vais chanter et que je peux pas tout faire en même temps. Mais en gros, c'est donner les moyens à tout le monde de pouvoir faire les choses. Donc, ça va être des travails sur ça. Ça va être un travail après. Nous, on fait des workshops. Par exemple, on fait avec Dolores Bakela, qui est une journaliste pour Libération, mais pour RFI, par exemple, elle va faire un workshop sur les médias, justement, sur comment le rapport entre artistes et médias, c'est vrai que ça a énormément évolué aussi les dernières années. Donc, on travaille, nous, avec des avocats, donc avec Ox Avocat, qui est un vrai cabinet, ça veut rien dire. C'est un gros cabinet, il travaille les plus grosses stars qu'on a en France. Ça fait très prétention de dire ça, mais c'est pas pour se le raconter, c'est plus pour permettre de donner à une pratique amateur, ou en tout cas des jeunes qui commencent une pratique musicale, de pouvoir travailler avec des gens qui maîtrisent leur sujet. Et c'est pareil sur la structuration, nous on travaille avec Grand Music Management, qu'on ne présente plus. Et donc du coup, c'est cet aspect-là qui va être essayer d'être 360 sur l'artistique, la technique. On a énormément d'intermittents, parce que du coup, forcément, on est une salle de concert, donc du coup, pareil, il y a ce travail-là qui est fait. C'est la vraie chance et la plus-value, si on doit parler de plus-value, c'est que on a une notion d'espace qui fait une grosse différence pour les artistes à ce niveau-là, quoi.
Tu as une question d'Az ou...
Non, mais en fait, si.
Vas-y.
Donc vous disiez, il y a pas de contrepartie exigée de la part des artistes que vous accompagnez. Non. Que vous soutenez. Mais genre, aucune.
Non. Parce que moi. Aucun coach. Il n'y a surtout pas de coach.
Non, mais parce que moi, je vis dans un univers où on a appris à la dure que si c'est gratuit, c'est toi le produit, tu vois. Et je me dis, vous dépendez en termes de financement du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui se passe si demain, le ministre de la Culture, il fait une garden party? Est-ce qu'il a le droit de taper dans votre roster en mode, tu me ramènes ces artistes-là que j'ai envie d'avoir chez moi, là, pendant qu'on mange des petits fours?
Enfin, non.
Il n'y a rien. Je veux dire, l'artiste, il peut dire, foutez-moi la paix, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Maintenant.
Ouais. Bah là, l'an dernier, moi, le ministère m'a demandé de faire la DA de la fête de la musique pour la ministre dans les jardins là du c'était où à Valois, enfin bref, là où il y a la fête de la musique le 21 juin pour la ministre. Et donc j'ai mis une artiste qui était dans le dispositif et j'ai mis une artiste qui était pas dans le dispositif, mais on avait fait des choix, c'était des artistes féminines, il y a eu Mentissa et il y a eu Issa Yazuke, et après on a fait du Chansigne parce que il voulait inclure justement
Chansigne, c'est celle tu as lis des gestes en fait de langue des signes, ou en tout cas pour exprimer un peu la musique.
Et donc voilà, et donc après j'aurais pu ne prendre personne mais c'est une mission qu'on m'a confiée parce que il voulait que ce soit quelqu'un de la filière qui aille plutôt que quelqu'un des bureaux en costard cravate parler avec les prods et tout ça quoi. Mais non, à vrai, vraiment, nous il y a rien, et c'est ça qui crée aussi cette confiance, comme c'est vrai, il y a ce côté un peu il faut aussi leur dire que
des fois on est juste là pour discuter et qu'on n'a pas forcément la bonne réponse à leur apporter, ou que ce qu'on leur dit c'est pas forcément le meilleur pour eux. Enfin, tu vois, je veux dire, oui, on n'a pas réponse à tout, quoi.
Oui, c'est pas parole d'évangile.
On est aussi des humains, quoi. Et c'est vrai que c'est chouette quand les artistes continuent à nous mettre dans les crédits en disant merci. Enfin, tu vois, là, j'ai pas plus tard que ce matin reçu l'album de Samba de la Muerte qui vient de sortir, et il y avait marqué merci le faire, mais comme merci plein d'autres trucs, ça fait plaisir, quoi. Ou quand Pomme t'envoie un disque de platine pour le faire, parce que elle sait ce que t'as apporté au moment, et c'est ça qui est vachement bien. Enfin, c'est ce que j'aime, ce que j'aimais quand j'étais manager, c'est qu'on est vraiment dans l'ombre. Quand tu disais, bah ouais, le grand public connaît pas, c'est
mais
normal.
Mais c'est ça qui est fou, parce que les noms qui passent chez vous, enfin moi, tu vois, j'ai lu plein de trucs sur. Tu parlais de NTM, de IAM et d'artistes comme ça qui sont incontournables. Je les ai jamais entendus parler du faire dans leur truc, tu vois. Enfin, c'est ça qui est bizarre. Il y a pas un côté un peu des fois de sentiment d'ingratitude de la part des artistes. De dire finalement tu les soutiens parce que tu ne les accompagnes pas, on est d'accord. Tu les soutiens et une fois qu'ils lâchent la main, ils vivent leur vie et puis.
Mais c'est ça qui est beau, quoi. Et c'est vrai, quand tu regardes sur les 35 dernières années, les 500 artistes qui sont passés par là, t'as des chouettes carrières et ça fait plaisir. Donc moi je trouve que on est au bon endroit, et c'est tant mieux qu'ils continuent après et qui s'entourent avec d'autres personnes qui montent leur structure s'ils ont besoin, ou qui fassent autre chose. Enfin bref, c'est la vie, quoi. Enfin, moi j'ai pas de problème là-dessus, quoi.
Tu voulais réagir sur quelque chose?
Non, mais sur les contreparties, parce qu'en fait moi déjà tout ce qu'on fait c'est,
parce que toi c'est la ville de Paris.
C'est la ville de Paris. Nous on est, alors.
Donc si demain Anne Hidalgo, bon, elle est à l'hôtel de ville.
Pour sa
garden party, elle se dit, je vais aller voir les gars de FGO Barbara et ils vont me sortir un petit panel d'artistes émergents, ça va être incroyable là. Est-ce que tu peux dire à Annie, écoute Annie, non, déjà tes pistes cyclables c'est de la merde.
L'échange, c'est-à-dire que si moi je suis que pour l'intérêt de l'artiste, donc si y a un intérêt à l'artiste de faire un événement, bien sûr qu'on en parle. Si elle me propose quelque chose, en fait on n'a rien, enfin ils peuvent rien demander.
Donc, d'accord,
nous,
c'est
après,
ça.
C'est vrai que nous, on est en position, c'est-à-dire que sans la ville de Paris, sans la subvention, on n'existerait pas.
Normal, ok.
Mais ce que je veux dire, c'est que eux, pour eux, ils sont gagnants dans le sens où il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un terrain dynamique à Paris pour la jeunesse dynamique. Ils offrent une réponse. Et nous, ce qu'on est, on est une réponse à cette jeunesse qui a envie de faire de la musique. Et moi, pourquoi je suis très vigilant à ça? C'est-à-dire que quand je faisais de la musique, à cette époque-là, on faisait souvent, et je sais plus si c'est trop le cas, mais en gros, tu fais une résidence, ok, mais en contrepartie, tu vas faire de l'action culturelle. L'action culturelle, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est très mal vu. Alors qu'en fait, pour moi, ça fait partie des choses qui vont...
Tu peux juste préciser action culturelle?
En plus, alors souvent, l'action culturelle, à l'époque, c'était, en gros, tu vas rencontrer une classe de sixième. Et tu vas leur apprendre à scratcher, ou tu vas, enfin, par rapport à un domaine de compétences qui est lié à l'artiste, tu vas intervenir. Donc souvent c'est école, hôpital, prison.
Ouais. D'accord.
C'est vraiment, je grossis le terme.
On dit des publics empêchés.
Voilà. L'action culturelle, c'est s'adresser à des publics qui sont pas les premiers publics auxquels on penserait qu'ils seraient attirés par la musique, en gros. Donc c'est tous les publics. Et donc, en fait, là où c'est passionnant, et là on réfléchit nous énormément sur ces questions-là, parce que justement, à Visio Baudet, on est sur ces questions-là. Et pareil, moi, quand je discute avec mes collègues qui sont sur l'action culturelle, je veux pas qu'on refasse la même chose. C'est-à-dire, en gros, chez nous, ta variation, ok, donc maintenant tu vas faire un truc avec les étudiants.
Oui, en échange de la résidence, par contre, tu dois aller donner des cours à des gosses.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment on révolutionne l'action culturelle pour pas le voir comme quelque chose qui est
une corvée,
et plutôt comme, en fait, l'action culturelle c'est le futur, parce qu'en gros notre pays vous avez vu la place de la société aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Donc forcément, même on le voit sur les artistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande aux artistes toujours de s'exprimer sur tout et compagnie. Donc l'action culturelle, pour moi, fait partie des premiers éléments de réponse pour une grosse majorité d'artistes qui vont pas aller vers la professionnalisation ou vers la carrière. C'est-à-dire qu'en fait, faire de la musique, donc respecter qui on est, notre sensibilité, pour des publics qui ne sont pas ceux des festivals et autres, mais c'est génial. Et
transmettre.
C'est, et c'est professionnalisant. C'est-à-dire qu'en fait, l'action culturelle, majoritairement, ils payent les artistes pour plein de choses. Donc en fait, c'est vraiment pour moi un truc qui est le futur pour la suite de la culture, quoi.
C'est, tu viens d'aborder un point extrêmement intéressant qui nous permettra d'embrayer sur la dernière partie de ce podcast et sur l'accompagnement Pas Plus Business. C'est, je sais que tous les deux on en a parlé, enfin chacun quand je vous ai eu au téléphone on en a parlé indépendamment. C'est, il faut parler aussi, ce qu'on a déjà évoqué dans cette émission, mais la surproduction, le fait qu'il y a entre guillemets peut-être pas de la place pour tout le monde, et surtout il y a un champ de possibilités à ouvrir qui peut non pas par défaut bénéficier aux artistes, mais juste peut-être même dire ça, ce truc c'est ça que je veux faire. Comme tu prenais l'exemple avec la Réal, est-ce que parle-nous-en un peu, parce que je sais que ça te tient à cœur. Ça, c'est quand tu accueilles des artistes, est-ce que tu te dis je sais qu'il fera pas forcément carrière, il va pas forcément devenir professionnel. Est-ce que tu vas même jusqu'à dire bah la musique ça peut rester un loisir pour toi, mon gars? Tu peux dire ça?
Moi, je me permettrai jamais de dire ça. Ouais. Jamais.
Pas par rapport à ses compétences, hein, mais juste dire à tout le monde, la musique, c'est avant tout un truc qu'on fait à la maison, à loisir, et c'est pas grave, c'est bien aussi. Alors, tu vois.
Moi, j'emploie pas ces termes. Je parle toujours de plaisir. C'est-à-dire, en fait, je dis aux artistes, si, en fait, de souffrir ou de pas prendre de plaisir, c'est pas normal. En fait, donc c'est-à-dire qu'au moment où le plaisir disparaît, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Donc après, il faut chercher la cause ou la conséquence de ce problème-là, mais. En fait, ce qu'on vit, pour l'avoir vécu vraiment moi d'une manière très modeste, mais la chance que j'ai de suivre des gens qui, eux, cartonnent, ou en tout cas remplissent des Bercy, c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas normal, de monter sur scène, de se faire applaudir par des gens qui ne te connaissent pas. Donc il y a une espèce de truc qui est complètement ambivalent, qui psychologiquement atteint tout le monde. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est un vrai échange. Moi, ce que je leur dis, c'est voilà, qui tu es, ce que tu veux faire, essaye de vraiment de traduire ça par des mots. Et moi, je t'explique ce qu'est la réalité. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va me dire, moi, j'ai envie de faire de la musique, mais je veux juste que ma famille ou, en gros, ma ville soit fière de moi, mais basta. C'est pas tout le même parcours que moi, je veux signer un major, par exemple. Parce que je veux, derrière, faire de la pop et compagnie. Donc moi, ma manière d'agir auprès de chaque personne va être très différente. Mais je vais toujours parler de plaisir et de choses pour dire, en gros, bah voilà, et ça peut arriver, et moi je me permets toujours de dire, bah en fait, que par rapport à tout ce qu'on va faire, sans doute, ça va déstabiliser. Je prends une métaphore toute pourrie, mais c'est l'ostéopathe. L'ostéopathe, généralement, on y va parce qu'on a mal, on repart, on est boiteux, et on a des courbatures pendant 2 jours. Et en fait, juste, il nous a remis dans une forme de droiture qui fait que, ah, on était déséquilibré, on s'en rendait pas compte, en fait. Et nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va interagir sur des choses qui, des fois, peuvent être waouh, ah ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on laisse toujours du temps pour dire, ok, voilà, t'as senti des choses là, c'est vachement intéressant ce que t'as senti avec telle ou telle intervenante. Maintenant, tu vas reposer ça et tu vas affiner. Et en fait, généralement, c'est d'eux-mêmes, tu vois, qui se disent, ben, en gros, mais moi, je vais développer des différentes formes d'art. Je pense notamment à Paul Lenoir, qui a plus gagné Bourges, qui fait de la musique électronique, plus ou moins expérimentale. Ben, en fait, les choses ont fait qu'il fait en ce moment des cours de, enfin, il y a des cours de yoga, une certaine forme de yoga, et lui, il joue de la musique ambiante par ce yoga. Et en fait, c'est pas un truc du pauvre, c'est pas un truc qui est j'ai échoué
à défaut de
c'est justement, c'est il crée des nouvelles façons de communiquer avec
son art, ouais.
Voilà, et sans trahir, en fait c'est ce que je dis, c'est qu'en fait on a beaucoup, je sais pas si t'as la question, mais j'ai beaucoup d'artistes qui me demandent pour The Voice ou quand il y avait des artistes et compagnie, est-ce que je peux y aller. Moi, j'ai aucune contre-indication. Déjà, je suis qui pour choisir leur place, et je dis juste, en fait, du moment que on te demande pas de changer qui tu es, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Il faut juste que dans la vie, en fait, il faut rester fidèle à nos valeurs et avec ce qu'on a envie d'être.
Parce et lire le contrat, quand même.
Lire le contrat, parce que, bien sûr, t'as très surtout sur l'exemple que je vais donner.
Et t'as des gens qui au début, commencent le soutien, et puis 2 mois après, ils disent, ah bah, j'avais pas en fait conscience de ce que ça impliquait de faire carrière, et en fait, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de le faire.
Alors.
Genre des lauréats qui
pour la première partie
abandonnent, quoi.
J'ai envie de dire 90% disent ah ouais, j'avais pas du tout capté que faire de la musique ça englobait déjà toutes ces choses là, toutes ces responsabilités là. Je pense que toi t'es d'accord avec ça. Et après qui arrête, ça m'est arrivé depuis que je suis donc depuis 6 ans 2 fois 2 artistes qui ont dit ok, en fait pas j'arrête la musique, c'est que je vais vers, alors moi j'ai pas eu l'exemple comme toi de la Real, mais je vais plus pour le professorat, ou en tout cas enseigner, ou coacher, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas donner un savoir, transmettre un savoir, mais et dire ouais, je vais arrêter de faire la scène, je vais continuer à faire de la musique, mais c'est tout quoi.
Mais c'est en fait de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent faire, ça oriente aussi vers les partenaires qu'on pourrait trouver autour de leur projet quoi. Mmh. Moi je parle souvent de French Flair qui est un éditeur, qui a des auteurs comme Ben Mazuet, Laurent Lamarca, etc. Qui sont les gars qui sont sur tous les pitchs dès que t'as un interprète qui cherche des paroliers. Et en fait dès que tu vois un album de Zaz, de Amel Bent ou autre que tout le monde connaît, bah en fait les auteurs derrière c'est eux quoi. Mmh. Et donc quand tu veux te spécialiser dans ces choses-là, bah tu t'as des acteurs qui sont plus appétant que d'autres. Je parle de Alterka souvent quand tu veux faire de la musique à l'image parce qu'ils sont très connectés justement pour faire de la synchro ou répondre au pitch pour avoir des commandes, etc. Donc en fonction aussi de ce que tu veux être et comment tu veux le faire connaître, bah t'as des acteurs différents dans la filière qui vont te permettre de t'accompagner ouais. et de rester justement qui tu es et de comprendre justement. Faut pas forcément aller là où il y a le plus de bling bling, mais vers les gens et vers les structures qui te comprennent le mieux. Je dis structures parce que les gens bougent aussi beaucoup et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affects dans notre filière et des fois tu vas signer pour telle personne mais qui 6 mois après peut être parti et donc tu te retrouves aussi dans des cas un peu spéciaux.
Pour un peu de la contradiction, il y a un truc qui est important, on revient toujours pourquoi les artistes doivent se faire confiance et pourquoi être à fond dans leurs particularités qui sont souvent tu vois sur des trucs très précis, c'est qu'on est par exemple le travail d'éditeur, le travail de synchro plus particulièrement et compagnie, c'est encore un espèce de truc d'Eldorado qu'on fait miroiter et compagnie.
Donc oui, juste pour rappel, la synchro, c'est le fait d'avoir une musique mise sur une publicité, dans un jeu vidéo, dans une série, etc.
Mais une musique existante.
Existante. Absolument, pas composée spécifiquement pour
voilà. Ça, c'est une commande.
Et en fait, aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, en fait, c'est dans les agences de pub, dans toutes les personnes intermédiaires, en fait, il y a foule de personnes qui sont là pour justement repérer des talents et des manières de parler différemment. Et en fait, il suffit de faire du bruit, un petit peu de bruit. Et en fait, on a plein de gens. Enfin, moi, j'ai que de l'entrant, par exemple, sur Molécule, j'ai que de l'entrant. Et c'est le cas pour d'autres artistes qu'on a à Variation, où ils ont énormément d'entrant. Et en fait, plus. Là, j'ai dit entrant, pardon, c'est des gens, justement, qui.
Ils pensent à toi directement.
Ouais. Et pourquoi ils pensent à eux? Parce qu'en fait, ils ont une manière de parler qui est complètement différente. Et en fait, c'est pour ça qu'en gros, plus un artiste ou une artiste va rester fidèle à qui elle est, et donc à ses particularités qui éliminent. Un méchant mot, mais qui élimine un peu des partenaires, enfin pas des partenaires mais des ennemis ou des gens qui pourraient rentrer en concurrence avec son art, je sais pas, par exemple quelqu'un qui va avoir un franc-parler, qui va aller sur un sujet très précis, qui va marteler ce sujet là fait que les agences, les marques vont la contacter directement et alors du coup
ouais. Après ça c'est la vision,
c'est la belle vision,
ça se passe bien, mais la réalité c'est que au sein d'une industrie il y a quand même des normes qu'il faut plutôt adopter,
il faut être consensuel
pour bien
aussi,
naviguer hein. dans l'industrie tu vois ouais. Et que dès que tu sors un peu des canons, mais dans de rares cas ça peut être bénéfique, mais
précisément dis parce que là, tu prends un exemple par exemple.
Non, mais avoir un style qui est quand même bien dans l'air du temps.
Je pense que tu peux pas te permettre absolument toutes les esthétiques sonores, effectivement.
Bah si, malheureusement.
Au moins, et en vivre?
Heureusement, je pense que oui, mais là, c'est nouveau. Par exemple, tu vois, par exemple, ce qui se passe sur Eloi, par exemple, qui, même si elle ramène de l'hyperpop, ce qui se passe chez les Anglo-Saxons en France, elle fait à sa manière là, elle vient de signer sur un major.
Ouais, enfin, l'hyperpop, c'est ultra tendance, je suis désolé.
Oui, mais je suis d'accord. Ouais. Je dis pas ça, attention. Je dis, enfin, l'hyperpop, c'est ultra tendance pour toi. Enfin, pour citadin, tu vois, vivre en France.
Oui, mais non, mais pour l'industrie de manière générale, entre guillemets, on sait qu'il y a un public qui se développe, etc.
En France, pas vraiment.
Des acheteurs.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore un peu de niche, tu vois, c'est encore, on sait pas trop ce qui va se passer avec l'hyperpop. Mais, là, on prend l'hyperpop, donc je comprends cet exemple qui peut être ambivalent. Mais je prends ce que tu peux demain, le reggae, tu vois, je veux dire, ok. Le reggae, tout le monde s'en fout et tout le monde trouve que c'est un truc de niche, un truc un peu. Mais en fait, je suis désolé, tu peux être la personne qui, de la manière dont tu vas faire du reggae, va faire que tu vas faire redevenir le reggae cool. Ce que je veux dire, c'est que vraiment,
Ouais, mais ça veut pas dire que Givenchy viendra te chercher pour mettre.
Eh ben, tu sais pas.
Je te prends un exemple. Si tu parles de reggae, par exemple, c'est quelqu'un d'ailleurs que j'aimerais bien recevoir dans le podcast. Je lui ai déjà écrit. On va voir si ça peut se faire. Bigaranx, par exemple. Mm-hmm. qui s'inspire de des musiques jamaïcaines, etc. beaucoup, mais qui aussi, dans son image, dans sa capacité à mêler ça aux cultures urbaines, entre guillemets, au hip-hop, au rap, etc., fait quand même qu'il y a des poids, il y a des points qui lui permettent, tu vois,
oui, il y a des portes d'entrée, des connecteurs,
il est pas complètement en dehors du truc, tu vois, un pur mec qui va dire demain, moi, je vais faire du reggae puriste, etc. Je suis pas sûr qu'il aura les mêmes opportunités, honnêtement.
Jamais.
Non, je te parle pas de, faire du, enfin, sur pareil, si tu reproduis, enfin, si on prend l'exemple du reggae et que tu fais du reggae traditionnel, tu vois, oui, enfin, ça sert pas à grand chose, en fait, mais donc, tu respectes pas qui tu es. C'est ça que je veux dire.
Si, mais c'est ce que t'as envie de faire.
Si le mec est reggae man, tu vois, si.
Oui, mais si tu fais. Pardon.
Ne mange pas le micro.
Si tu fais du reggae.
On a tous faim, mais.
Non, mais si tu fais du reggae comme. Alors que t'es fan de reggae, t'es de culture, tu vois, jamaïcaine et que c'est vraiment pas de l'appropriation culturelle et qu'en plus t'as vraiment envie d'en faire, mais tu fais du reggae comme ça a toujours été fait. Qu'est-ce que t'apportes de plus au mouvement? Rien. Donc en fait, c'est là où c'est compliqué. Par contre, que tu prennes cette appropriation par culturelle, mais que tu fasses en sorte de faire moi ce que j'ai par une éducation, par une culture, c'est le reggae, mais par contre, moi ce que je suis, je vis en 2023 et que du coup, je suis un bordel de mélange de plein de trucs, parce que ce qu'arrive à faire la nouvelle génération, ce que nous on a du mal à faire à l'époque, la fusion, vous connaissez tous la fusion, ça a toujours été dégueulasse la fusion, enfin en tout cas très maladroit. Là, la fusion aujourd'hui qui est faite par l'imagination, elle est démente. C'est-à-dire que cette génération a su mélanger toutes les recettes pour en faire quelque chose de nouveau. Et donc je pense que quelqu'un qui... C'est pour ça que ça demande un effort, je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'il faut juste faire « Ah, mais je vais faire cette musique-là, ouais, j'y crois à mort ». Si tu fais vraiment quelque chose qui est lié à toi et par rapport à ce que tu es et qui est un truc, tu multiplies tes chances d'attirer des gens et des marques. J'ai des exemples, alors pas au niveau international, mais forcément... Parce qu'il y a plein de gens, mais des gens qui se démarquent.
Ce que tu cherchais, tu veux réagir?
Il y a plein de choses. Je pensais à Turfu qui fait l'espèce de techno avec un accordéon. Je pensais à Mézergue qui a remis le thérémine au goût du jour.
Mézergue.
Etc. Etc. En fait, il y a quand même des possibilités. Enfin,
On essaie de l'avoir.
C'est vrai.
Il devait venir. Finalement, ça s'est pas fait.
Bon, Marc, il faudra que tu viennes. Non, mais tu vois, nous, quand il est arrivé au Fer, il avait sorti une track sur les plateformes. Il avait que des sons sur YouTube. Il s'est fait connaître comme ça. Nous, il est arrivé en 2020, pile pandémie. Il avait 100 dates à l'Inter et tout. Il a tout de suite dit, bon, bah, moi, je sais que l'année est morte. Il a continué à produire. Et après, il a trouvé les bons partenaires pour pouvoir l'accompagner, etc. Et c'est Bass Prod, qui est un tourneur qui est dément, qui est sur Bordeaux, qui s'occupe aussi d'O2N. Il a signé chez Sony ATV. Ils ont tout développé. Et en fait, au départ, c'est pas facile, quoi. Enfin, tu vois, et pourtant, ça remplit des Olympias, ça remplit des salles. Et c'est un homme orchestre, où t'as beaucoup de bandes aujourd'hui. Lui, dès qu'il joue pas avec ses pieds et ses mains, il se passe rien. Mmh. Et il crée un truc qui est assez fou.
Il crée son style, c'est assez incroyable.
Ouais,
son show, en tout cas, sa manière de faire de la musique.
Est-ce qu'il est dans une pub Givenchy? C'est ça la question.
Ça va faire très intéressé, mais par Molécule.
Ouais.
Au hasard.
Vraiment, qui
est en concert quand déjà?
Le 6 février. Le 6 février Olympia, bien sûr.
Un album qui sort la semaine prochaine. Bon, bref. Non, mais prends un exemple que je connais très bien, puisque du coup, je le manage. Il fait de la musique électronique. Donc, on va se dire, en fait, ok, la musique électronique, surtout en France.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Et on a beaucoup de gens ultra forts et ultra connus. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus à la musique électronique? En fait, ce qu'il a apporté le plus, c'est sa manière de la faire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, son truc à lui, c'est de se mettre dans un environnement particulier, d'amener son studio, pas juste un laptop et un contrôleur, d'amener tout son studio, de le déménager dans un environnement, pas pour raconter une belle histoire, juste parce que cet environnement va l'inspirer pour pouvoir faire un disque. Mmh. En fait, et tout ça, il a mis en image, donc souvent c'est lié à un album, un objet qui est très beau, donc documenté comme un bouquin, un vinyle particulier, un film et compagnie. Ce savoir-faire de enregistrer l'environnement pour en faire de la musique, toutes les marques le sollicitent. Et donc après, c'est nous qui équilibrons par rapport à quand c'est des voitures, on n'a pas envie, parce qu'on est plutôt sur un truc un peu écologique. Et en fait, ils viennent le chercher par rapport à ça, rapport à un truc précis.
En fait, ma critique, entre guillemets, c'est de dire le fait qu'en faisant quelque chose de personnel, ça donne des atouts pour se démarquer, Ça, je l'entends, je pense que tout le monde se mette d'accord. Pour autant, je crois qu'il faut quand même que ce côté plus personnel, il soit dans une forme d'air du temps.
Et complètement. Mais bon, ça, on est d'accord.
Non, mais c'était pour dire que.
Le gars du trombone du début, lui.
On peut pas dire qu'en fait.
Givenchy va pas l'appeler, quoi.
On peut pas dire que, par exemple, si t'es un pur puriste, tu fais du blues, du delta blues à l'ancienne, que t'auras les mêmes opportunités que si tu mélanges le blues avec le rap ou avec la techno ou je ne sais quoi, tu vois. Parce qu'il y a quand même des trends.
Que ça soit pertinent.
Il y a quand même des attentes, etc. Et tu vois. C'est juste pour mettre un peu un peu le holà. Fais un truc personnel et ça marchera, tu vois.
Oui, c'est... Eh ben si, mais attends, il y a une nuance. Mais parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question, il y a une question de temporalité. Ouais. Ça marchera, mais on ne sait pas quand. Certains de la chance et en fait, ce que tu es, si ça correspond pas au monde actuel, bien sûr tu vas galérer. Mais si tu t'accroches à ce que tu es, tu vas finir par y arriver. Mais November Ultra, c'est ça. Elle a mis 6 ans, 7 ans à imposer un style. Kim Gianni. Il a fait 25 albums et aujourd'hui, il n'est pas une riste internationale, mais tout le monde le kiffe. Il est sollicité pour faire des musiques de films, pour faire des musiques documentaires. En fait, les gens, on le sait, c'est des modes. Les gens sont plutôt lâches dans l'industrie globale. Donc en fait, on voit un premier artiste, on se dit, attends, on va peut-être pas lui donner. Mais le mec, il est toujours là plus tard. Il est toujours dans son truc à fond. Le truc, il tourne. Enfin, je veux dire, c'est...
Après, on a vu dans pas mal de formes d'art que le mec, il l'attend, il meurt, puis c'est après seulement que... Ouais, ouais, c'était pas mal.
Non, mais ce que je veux dire,
mais après, il touche ses éditions pendant 70 ans. Alors ça va.
Il a fait des enfants, ils sont contents. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, on n'est pas au pied des bisounours. C'est-à-dire que c'est ce que je suis, même si je suis différent, ne peut ne pas intéresser les gens, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça dépend qu'est-ce qu'on attend par intéresser les gens. Moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que, en fait, et ce que je dis au groupe, c'est qu'en fait, l'intérêt commence déjà à partir de 4 personnes. Tu vois, je veux dire, tu peux déjà être ce que tu es, fidéliser 4 personnes, j'exagère, mais déjà, c'est 10 personnes, 20 personnes qui vont être fidèles, qui vont en plus commencer à faire le truc. Puis c'est ce qui se passe dans le métal ou dans tous les milieux de niche. En fait, c'est des gens qui sont plutôt fidèles, qui vont acheter le merch va te faire financer ton album ou ta prod derrière. Il y a quand même toute l'équipe, donc d'être qui on est profondément, je pense, c'est la seule, enfin, pour moi, c'est la meilleure chance.
Et d'être dans le plaisir, mais quand tu disais 4 personnes et tout, et c'est vrai que des fois t'as des artistes qui disent ouais mais il y a 10 personnes dans la salle et ben en fait t'as déjà la chance d'avoir 10 auditeurs et c'est toi qui est en train de raconter quelque chose quoi. Et donc ça c'est aussi un truc qui est, je trouve, en train de se changer en fait.
Vous les sensibilisez justement à ça, à dire 10 personnes, 15 personnes c'est pas un échec, vas-y quand même, donne-toi.
Bah ouais, il faut que le show il soit à fond quoi, parce que enfin tu vois, moi j'ai managé un projet, on a fait une date, on a joué devant 40 pélos et il a tout donné, on a vendu 20 disques à la fin, tu vois, et si on fait 50% de la jauge à chaque fois non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, c'est vraiment considéré que c'est une chance de pouvoir être écouté aujourd'hui, enfin tu vois, tout le bruit qu'il y a partout tout le temps et tout, il y a des gens qui viennent et qui vont t'écouter, et c'est encore plus vrai sur le live où tu vas avoir un vrai temps avec ton artiste. C'est vrai que moi, tu vois, on parlait, moi j'ai des enfants, j'en ai que 3, ça y est, mais j'en ai pas 4. Peut-être, mais je suis pas au courant. Mais non, mais tu vois, ils écoutent plein de musique, et alors forcément, ils écoutent aussi des trucs un peu. Enfin, tu vois, moi j'ai Félix qui a 10 ans et qui peut te chanter du Stupéflip, alors voilà, il est un peu décalé, mais pas trop, parce qu'il écoute aussi les trucs de l'école et tout ça. Mais en fait, moi, ce qui me frappe, c'est dans leur façon d'écouter la musique, quoi. Quand tu disais, on allait acheter des albums sans les écouter et tout. On était au courant des trucs qui sortaient, on allait à la Fnac, on savait que si on allait très vite, on pouvait avoir un t-shirt goodies ou un boc Ugly Kid Joe ou enfin tu vois, bref, et plein de trucs comme ça, ou les CD ou les machins promo en plus et tout ça. Donc on était dans ce truc là et on écoutait un album quoi. Et aujourd'hui en fait c'est de la track, c'est vrai quoi. Quand je leur dis va écouter Ben Harper, Radiohead ou je sais pas quoi, ils vont sur Deezer et puis voilà, ils font la playlist des titres les plus écoutés quoi.
Normal.
J'ai dit, ben non, écoutez OK Computer, je veux dire, l'album de A à Z, il s'écoute, c'est magnifique et tout ça. Donc il y a aussi tout cet aspect-là.
La consommation
qui est différente quoi.
Ça c'est d'ailleurs un truc que vous voyez lorsque vous faites du soutien aux artistes. T'as vu, j'essaie vraiment à chaque fois d'éviter de dire accompagnement et tout, c'est chaud. Bravo. Parce que Il y a une tension quand même chez beaucoup d'artistes, justement sur le flux de morceaux à produire, parce qu'on sait qu'en fait, le modèle des plateformes de streaming, le patron d'ailleurs, Daniel Elk le disait lui-même, bah les gars, faut s'adapter en gros. C'est sortez, je ne sais tous les combien, un morceau, etc.
Oui, ça favorise pas l'album concept qui s'écoute.
C'est parce que encore une fois, oui, il y a évidemment le plaisir, faites en fonction de vos envies, démarquez-vous, etc. Après, il y a une réalité économique, une réalité de normes dans le marché, etc. Vous leur rappeler ça quand même. Ensuite, il y a une espèce de juste milieu à trouver dans tout ça. Est-ce que vous mettez complètement en dehors de toutes ces considérations, ce qui me paraît très étonnant quand on veut se professionnaliser.
Non.
Mais
ah bah non, t'es forcément obligé un peu de suivre le mouvement, quoi. Enfin moi, et on a 20 ans et on a vécu toute cette révolution. C'est pas une évolution, c'est une révolution. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Avant, bah tu dépensais peut-être 80% de ton exploitation une fois que l'album était sorti parce que t'accompagnais la tournée et que tu sortais des singles après, etc. Aujourd'hui, tu dépenses presque 80% avant le début de la sortie, quoi. Je caricature. Un peu moins. Mais t'as le single 1, le single 2, le focus track, tu sors le truc. Après, ouais, le single 0. Enfin, bref. Et dès que t'arrives après, une fois que c'est sorti, c'est du back catalogue pour les plateformes. Tu peux plus le repitcher. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est fou. Donc, en fait, on te dit, sors tout les 6 semaines, 8 semaines, des singles, machin, pour pouvoir nourrir l'algorithme, pour pouvoir remonter, etc. Donc, on te dit les règles du jeu, elles sont celles-là. Soit tu joues et tu peux gagner, soit tu joues pas et ça devient plus compliqué, quoi. Mais en parallèle, t'as 120 000 titres qui sortent tous les jours, donc il faut justement avoir les bons partenaires qui vont pouvoir pitcher pour que tu sois dans les playlists qui vont bien, de nouveautés, de ceci, donc, de cela.
Ça, vous allez quand même l'accompagner là-dessus, c'est-à-dire il faut essayer d'être playlisté, on a des contacts.
Bien sûr, après nous, on leur file un abonnement d'un an à Soundcharts pour qu'ils puissent voir justement où est-ce qu'ils sont dans les playlists, où est-ce qu'ils sont dans les radios, combien ils sont sur
Mais même sur le format, par exemple, vous signez, petit lapsus, vous soutenez un artiste et lui, son délire, c'est vraiment de faire des morceaux de 8 minutes 30, tu vois.
Ben, allons-y.
Il y a pas de peut-être que ça serait mieux si tu faisais du 3 minutes.
Pareil, mais vous allez lui dire par contre la réalité du terrain.
Voilà, en fait c'est ce qu'on dit depuis le début, je pense qu'on se rejoint là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait notre discours s'adapte par rapport à ce que souhaite faire la personne. Si lui nous dit je vais faire 8 minutes et je veux être connu pour ça, mais il pourra pas, mais connu c'est donc la diffusion. Connu c'est quoi? Est-ce que tu veux jouer dans ton quartier, tu veux jouer dans ta ville? Si connu, enfin on rigole là, mais en fait, quand les groupes me disent tous, je passe 9 sur 10, me disent, moi, je veux faire de la musique. Je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi pour toi faire de la musique? T'as 9 définitions différentes. Donc en fait, ils se rendent pas compte, ils savent pas ce que c'est.
Ils se mettent tous d'accord sur le fait, par contre, qu'ils veulent être connus. C'est souvent un moteur.
Oui.
La reconnaissance.
La notoriété, ouais.
Ce truc de, justement, ce qui est drôle, c'est pas drôle, en fait, mais c'est.
Non, c'est drôle.
Ouais.
Il est horrible.
C'est ce truc de, ils veulent être connus, mais en fait, ils mettent pas une échelle de temps de, en gros, c'est quoi, tu veux sortir un disque, être connu et t'arrêter, tu veux faire une carrière, enfin. Et souvent, ils parlent de carrière. Et ce qui, moi, en connaissant tout ce qui se passe là, c'est complètement fou comment on peut aujourd'hui penser une carrière alors que, justement, ces discussions que j'ai même avec Julien, où tu vois, on peut dire, lui, commence à faire une carrière.
Et, Julien Doré, tu veux dire?
Oui.
Oui, il commence, oui.
Oui, mais c'est.
Bof, un peu.
Si.
Ok.
Mais du coup, c'est une carrière, c'est tellement long, c'est tellement mené d'embûches que, en fait, quand eux, ils sont là, même sur le format de pas savoir qu'est-ce qu'il faut sortir, tu dis, mais qu'est-ce que vous prenez la tête avec une carrière? Ou comme les questions qu'on peut avoir, par exemple, sur le live, où je vois des artistes qui sont en train de composer, ils disent, mais attends, mais comment je vais faire? Parce que comment je vais faire pour jouer ce que je suis en train d'enregistrer là pour le live? Je dis, mais on s'en fout. Je veux dire, mais en fait, là, on est déjà en train de, c'est ton cerveau, concentre-toi sur ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de mettre 10 cornemuses parce que tu trouves que c'est logique par rapport à qui tu es et au morceau que t'es en train d'écrire, tu le fais. On verra plus tard pour les 10 cornemuses sur scène, tu vois. Mais donc, tout ça, en fait, c'est, on adapte un discours par rapport à tout. Et quand on a donc, pour répondre à vos questions sur, on va dire, l'artiste, donc, du coup, pop, qui veut juste être dans les playlists, qui veut être dans le truc du moment, et ben en fait on a les mêmes outils que disposent tous les pros aujourd'hui. Moi je vais essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire que je vais venir des DA comme Olivia de chez Universal Publishing, comme Yann Gazi qui est un monstre, qui est un DA historique qu'on a eu ici, qui a travaillé avec Daft, avec les NTM, avec qui a signé Pomme et qui aujourd'hui est un indépendant mais qui travaille avec Timothy Joly, avec tous les nouveaux producteurs. Donc c'est un mec, il a autant le passé, l'expérience des plus gros cet artiste avec tout ce qui est de plus branché, de plus pointu aujourd'hui. Donc c'est pour moi quelqu'un qui est un super référent. Et je l'ai fait venir, et quand ils viennent, même quand c'est quelqu'un de chez Universal Publishing qui vient à FGO, c'est pas pour faire le marché, c'est ils enlèvent leur casquette de marque, en gros, et c'est juste pour pouvoir discuter sans séduction, parce que c'est toujours pareil. Quand tu vas voir un éditeur ou un DA, c'est pour qu'il te signe. Donc du coup, tu vas pas dire la vérité, tu vas essayer de faire en sorte, c'est comme un premier rendez-vous, quoi.
Tu vas embellir un peu le
voilà. Là, l'idée, c'est que, en fait, et pareil, souvent le label aussi, il est là pour séduire, pour dire chez nous, c'est nous, on aura les meilleurs synchros du monde et compagnie. Donc du coup, là, l'idée, c'est des rendez-vous où ils peuvent parler sans filtre, avec aucune obligation de faire quoi que ce soit derrière, et juste de parler. Et en fait, et chacun fait avec les compétences et les données qu'on a. Mais c'est les artistes eux-mêmes qui vont développer leur propre truc. Donc ce qu'on fait sur, en effet, les plateformes, on le sait, c'est-à-dire que quand tu vas sur une plateforme, majoritairement les gens vont lire les trois premiers morceaux les plus joués, ils vont pas lire l'album. Donc souvent, ce qu'on a encore aujourd'hui, des projets qui vont sortir un disque, ils pensent tracklist de l'album et ils essaient de raconter une histoire, sauf qu'en vrai les plateformes ont cassé,
jamais consommé comme ça.
C'est pas comme nous à l'époque, on appuie sur play, on écoutait le disque, on voyageait à travers la playlist de... Là aujourd'hui c'est
jusqu'au morceau numéro 9 qui était généralement le meilleur.
Et ce qu'on fait, c'est déjà en fait, non mais j'ai plus les chiffres en pourcentage, mais c'était vachement intéressant, c'est qu'en fait sur quand on analyse les gens, le public moyen qui va sur une plateforme, en gros 80% des gens vont cliquer sur déjà des playlists qui vont tomber sur la page artiste de la personne. Ces gens-là vont écouter les trois premiers morceaux, et donc après c'est le deuxième filtre. Troisième filtre, ils vont sur le disque, et sur le disque ils vont écouter le premier morceau, et après du coup ils déroulent si vraiment c'est vraiment bien. Mais du coup il y a eu tous ces filtres avant pour arriver jusqu'à l'album. Donc en fait tout ça, c'est qu'on leur inculque, leur expliquer, pas en disant c'est bien ou pas bien, juste voilà ce qui se passe, voilà l'époque dans laquelle on est, et sans donner un jugement moral par rapport à ça.
Pour terminer là-dessus, votre métier, c'est aussi de connecter et de faire venir des gens de l'extérieur, etc., pour accompagner, c'est pas le bon terme, pour soutenir les artistes, en tout cas pour leur montrer les différentes possibilités, la complexité, les multiples facettes du milieu musical. Est-ce que vous encouragez quand même les artistes autour de vous à viser l'indépendance, voire à gérer par eux-mêmes ou avec un petit entourage? Parce que c'est une tension qu'on sent aussi beaucoup chez les artistes aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de contrats de distribution, etc.
Moi, tu me mords. Là, t'as remis une pièce à Dieu de boxe. Je vais te remettre deux heures dessus. Hein.
C'est un peu compliqué comme question, mais tu vois, il y a ce côté, à la fois, on a tous conscience qu'il y a besoin d'être accompagné, et en même temps, il y a aussi vachement de bénéfices à essayer le plus possible d'être indépendant, quoi, à tous les niveaux, y compris niveau business. Comment vous arrivez à trouver le juste milieu? Qu'est-ce que vous présentez aux artistes?
C'est une question très complexe, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, et donc c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, si tu veux continuer à exister, tu dois faire les choses par toi-même. Quand je disais c'est un train que l'artiste va commencer à faire, et c'est vrai qu'ils savent déjà un peu en termes de DA image ce qu'ils veulent faire, etc. Et la filière regarde quand même beaucoup aussi les datas pour pouvoir se positionner. Moi je trouve qu'il y a des fois tu passes à côté de projets qui seraient fabuleux, et en fait et d'autres projets qui vont attirer tout le monde et qui vont faire monter les prix tellement haut que ça en devient un peu risible. Mais l'indépendance, en fait, t'es un peu obligé d'en passer par là, quoi. Enfin, c'est-à-dire que...
Mais est-ce que c'est un objectif à viser à terme, même, tu vois, de dire, vas-y, essaye de contrôler le plus possible par toi-même avec ton petit entourage, ou au contraire, ouvre-toi, tu vois,
En fait, ça dépend des métiers aussi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la production phono, c'est quand même très compliqué. Et donc, il y en a beaucoup qui gardent leur master et qui signent en licence ou en distribution, pardon. Travailler une œuvre, être éditeur, c'est quand même un métier à part entière. Moi, je trouve que c'est un métier hyper intéressant pour l'artiste, puisque c'est des relations assez longues. Tu signes des packs de préférence de 3, 4, 5 ans. Donc, t'as le temps de travailler avec les gens. Enfin, tu vois, c'est pas avant. Enfin, vraiment, moi, il y a 20 ans, j'ai essayé de casser un contrat d'un artiste qui avait signé 4 albums fermes. Ça peut être très très long, 4 albums fermes, quand t'as plus envie, quoi. Alors que là, des fois, ça se passe pas bien non plus, mais enfin, le travail d'un éditeur est quand même pas le même qu'un DR en maison de disque. Et après, tourneur, c'est pareil. C'est producteur de spectacle, il y a quand même des investissements, il y a quand même un réseau, il y a quand même un métier. Donc il y a des choses qui te semblent facilement atteignables, et notamment la démocratisation de la production phono, ouais, c'est quand même plus plus facile de pouvoir te démerder tout seul sur cet aspect-là que de connaître exactement toutes les salles. Enfin, tu vois, nous, on a des cafés-concerts, on a des SMAC, on a des scènes nationales, on a des centres culturels, on a des festivals, on a tellement de lieux de diffusion que, bah, après, enfin, faut savoir le maîtriser, quoi.
C'est intéressant parce que toi, ton premier réflexe, c'est de segmenter, en fait, c'est de dire, attends, il y a dans la musique, toi, en tant qu'artiste, tu vas avoir besoin de l'aspect booking, l'aspect édition, machin, etc. C'est un bon réflexe, ouais, mais que tout le monde n'a pas forcément Et effectivement, dire l'indépendance, par exemple, sur tout ce qui est production phono, produire soi-même, avoir ses masters, etc., c'est un objectif, pourquoi pas, louable. Par contre, pour le reste, bah, c'est des métiers et t'auras bien besoin de quelqu'un. En gros, c'est ce que je comprends de ce que tu nous dis, quoi.
Ouais, il y a de ça. Et puis, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, en France, je trouve que le manager en France a une place qui est pas aussi importante que dans d'autres territoires comme UK ou autres, où t'as des énormes boîtes de management.
C'est les patrons.
Et c'est eux qui dealent le truc, quoi. Et aujourd'hui, nous, alors c'est en train d'essayer de se structurer. C'est en train d'essayer de se structurer. Voilà. Je sais pas si on peut en parler ou quoi, mais il y a un manager qui est en train de regrouper 140 à peu près managers. Il a rencontré beaucoup de monde et il est en train de remonter une structure parce que les structures existantes de management, que ce soit MMFF ou AMA, sont vieillissantes et plus adaptées, en fait, à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ça, on a besoin d'avoir, en fait, ce partenaire hyper important. C'est le premier cercle, en fait, de l'artiste. C'est le gars qui a les deux pieds dans le business, mais un pied dans l'artistique, et qui est vraiment le tampon avec l'artiste pour cette filière. Et souvent, bah, t'as des exemples aussi où, bah, la structure, elle est montée, c'est le manager qui va la gérer, qui va justement déléguer, enfin, l'artiste va déléguer au management toute cette partie-là, etc. Et pour moi, déjà, si t'as un binôme management-artiste hyper fort, bah, c'est génial. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation de manager en France aujourd'hui, et que tous les artistes émergents veulent des managers de super expérience, ou un senior. Sauf que c'était Anne Cibron qui est donc la manageuse quand même de Booba, de Orelsan, d'Olivier Ruiz, enfin, qui a bossé avec tellement d'artistes depuis longtemps. Il y avait un artiste émergent qui a été là-bas en lui disant, ah bah, je t'ai choisi, ça va être toi ma manageuse. Fait, mec, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est moi qui vais peut-être choisir si j'ai envie de travailler avec toi ou pas. Donc il y a tout ce truc là où t'as envie forcément, quand on disait être mal accompagné, mais il y a des belles histoires aussi d'artistes qui arrivent dans la filière, avec des managers qui arrivent dans la filière, et ils gravissent, ouais, ça je veux bien qu'on le coupe, et les échelons ensemble pour pouvoir avancer et comprendre. Mais tout va très vite. Moi, j'ai eu la chance d'arriver en 2002 dans la filière, et je t'avoue que je faisais des rendez-vous avec des partenaires, je disais oui, je savais pas de quoi du tout on parlait, et j'avais le temps d'apprendre et d'accompagner. Aujourd'hui, faut tout de suite être ultra performant, taquet, ouais. Et donc voilà. Mais pour moi, en fait, tu peux faire beaucoup de choses tout seul si tu es bien accompagné en management. Et le management aujourd'hui, moi, c'est souvent quand même le partenaire manquant autour des projets.
Le colocataire qui fait le rôle manager. Mais moi, je pense qu'on oublie un truc quand même qui est important, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat ou pour l'indépendance.
Ouais, bien sûr.
Et par exemple, moi, j'ai managé pas mal d'artistes, et il y avait des gens qui étaient prédisposés à être un artiste, et d'autres un truc tout bête. Enfin, par exemple, pour revenir sur les deux contrats, je sais qu'aujourd'hui la mode, c'est les contrats de distribution, parce que idéalement, quand on nous veut, quand on est artiste, qu'on souhaite, ben forcément on peut avoir une avance qui va être super pratique et compagnie. Sauf qu'en fait, l'avantage de l'artiste, c'est que généralement c'est des contrats, rarement ce sont des contrats sur un album, c'est au moins deux albums et des options. Si c'est bien dealé, donc du coup, l'importance management et un avocat, je le répète, c'est jamais de l'argent mal placé, puisqu'au contraire, l'avocat, ce que va vous coûter, va vous faire gagner d'une manière différente. Et surtout, l'avocat, quand tout le monde, parce que c'est pareil, quand on va signer avec un label, c'est formidable. C'est comme, je parle de mariage, alors je suis pas marié, mais c'est comme tout le début, tout va bien et formidable. Pardon. Et j'étais décalé pour les gens qui n'ont pas compris. et du coup, forcément, les gens qui... quand tout va bien, c'est formidable, mais dès que ça commence à pas avoir les résultats, j'arrive pas avec l'appareil dentaire.
Escompté.
Voilà, merci.
On n'y arrive plus, en fait, ça y est.
En même temps, ça fait 2 heures.
Merci,
c'est normal.
Coup, on est bien content d'avoir un avocat qui a bien lissé un contrat à la base. Mais je reviens sur la signature, c'est-à-dire que quelqu'un qui a signé un artiste, en fait, premier album, plantade. Il est protégé, il est garanti de faire un deuxième album. Si en plus il veut, le label veut pas, il veut casser le contrat, il repart avec l'argent qu'il a négocié et compagnie. Donc c'est quand même une sécurité de dire ok, je suis quand même avec un partenaire avec qui je vais rester un petit peu. Donc il y a, c'est pas le même rapport.
C'est intéressant de le voir comme ça aussi.
Et donc du coup en fait c'est pour ça que toujours pareil, je pense qu'il faut toujours partir du postulat de en fait qui tu, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Ce sont les trois mots de la fin.
Il est fort. Il est fort. Il est fort. C'était les trois mots du début.
Incroyable.
C'est un métier.
La boucle bouclée.
La boucle est bouclée.
À la bouclette.
Bon, les gars, évidemment, c'est des sujets sur lesquels, enfin, on pourrait parler pendant des heures, de ces sujets. Il y a des trucs qu'on a manqué certainement, mais j'espère en tout cas qu'on a dressé une forme de panorama, des pratiques, des acteurs, etc., des possibilités pour se faire soutenir en France lorsqu'on est artiste.
Venez le 22, 23, 24 novembre voir le au festival ici demain à Joe Barbara.
Bon, attends, parce que tout à fait ta pub, c'est bon. Julien, parle-nous peut-être rapidement aussi de nous les lauréats récents, parce qu'il y a eu des lauréats récents et on peut postuler aussi pour la prochaine session.
Ouais, là, tout le mois d'octobre, l'appel à candidature est ouvert sur notre site www.lefair.org. Nous, on vient d'accueillir 7 nouveaux lauréats émergents et 3 nouveaux lauréats expérience qui vont jouer le 29 janvier au Café de la Danse. Voilà, c'est une soirée gratos, contrairement à l'Olympia de Molécules
du 6 février.
Faites-moi un commentaire, laissez-moi un petit mot et je vais en sortir.
Mais voilà, non, nous, le Café de la Danse qui est partenaire, on fait une soirée avec les 7 artistes émergents qui font des showcases de 15 minutes qu'on
belle
capte.
Salle, et souvent, ces soirées sont très bien organisées.
Merci. Et donc voilà, ça vous pourrez aller les voir. Donc ça va de Leslie Medina, à Maïra, à Nina, à Wizard. Voilà, j'en oublie. Désolé. À Violet Indigo qui a sorti un titre Toxique aujourd'hui et qui sera ma reco justement.
Très bien.
Et bravo.
Pam.
Et bravo. Bravo. Incroyable. Est-ce qu'on enchaîne sur les recos justement, Daz?
Bah allons-y.
On
ouais.
termine comme ça.
Ouais.
Et bah tu sais quoi, t'en avais une reco. Vas-y, on l'écoute tout de suite, Julien. Allons-y.
Et bah voilà.
Violet Indigo.
Quel
Violet
morceau?
Violet Indigo, Toxique, qui est sorti aujourd'hui. Où j'aurais pu parler aussi de Anxiety, de Johnny Carwash, qui sont lyonnais.
Ah,
Toxique et Anxiety, j'ai l'impression que ça va bien la santé mentale des artistes. Hein. Ça marche. Hein.
Bah, tu vois, on a 3 jours de séminaire sur le corps et la santé du musicien et on parle de l'INSART, qui est une structure qui a été créée il y a pas longtemps. Et vraiment l'INSART, I-N-S-A-A-R-T, et dont Sophie Bellet fait partie. Et en fait, c'est vraiment pour tout ce qui est santé mentale. Si t'as des problèmes de burn-out, de dépression, de dépendance ou autre, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et donc, c'est important de savoir que ça existe. Et c'est des gens qui sont vraiment orientés culture et musique. Donc, c'est important. Enfin, voilà, c'est pas des gens qui bossent aussi pour le tertiaire lambda, c'est des gens qui sont à même de comprendre que ce qu'est une tournée, ce qu'est le stress d'une sortie, etc., etc. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on intervient aussi.
C'est un élément dont on a assez peu parlé dans l'émission, quoi qu'on a parlé quand même des aspects psychologiques parfois, mais évidemment c'est extrêmement important. Et je pense même en fait qu'on fera un jour un épisode spécifiquement sur ce sujet, sur en fait, de la santé de manière générale, mentale. Et pas que mentale d'ailleurs, physique aussi. Dans le milieu
on parlait d'ostéo, on a un ostéo coach, enfin un ostéo kiné spécialisé dans la médecine des arts, qui s'appelle Éric Dufour, qui intervient avec une coach scénique en aisance corporelle qui est Bénédicte Lelay, et on fait justement un séminaire de 3 jours. Et en fait, les artistes ressentent de là complètement chamboulés. Voilà. Et c'est important. Enfin, voilà.
C'est vraiment sur tous les aspects. Hein,
On essaye. En tout cas, moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, je voulais que le corps fasse partie de l'accompagnement, du soutien, parce que c'est mais c'est hyper c'est hyper important. Enfin, les gens quand t'arrives, les gens classiques qui vont à un concert à 20h30 se doutent pas de la journée qu'a passé un artiste pour être présent et être prêt et motivé pour jouer. Et en fait, c'est vraiment des rythmes de dingo, quoi. Là, tu vois, j'étais en visio avec Zao de Sagazan il y a 2 jours, qui est lauréate expérience, et elle a quand même un rythme très 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 soutenu, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est des mois qui font 65 jours, quoi. Ça n'arrête jamais.
Mais c'est pas un autre sujet, parce que c'est lié, mais ça explique en partie pourquoi historiquement c'est des milieux où on parlait souvent de drogue, etc. Parce que aussi, parfois physiquement, fallait tenir. J'espère que ça a changé aujourd'hui et qu'il y a d'autres manières de tenir.
Bien sûr, la piqûre de cortisone pour quand t'as plus de voix.
Non, mais d'ailleurs,
ce show must go on, en fait, tu vois.
Ça a quand même complètement évolué. Hein. Je veux dire, quand même, le rapport à la drogue, le rapport à l'alcool, les artistes aujourd'hui, c'est quand même un autre délire. Hein.
Ouais, ça a changé.
Donc c'est, ils sont, et puis très vite, ils sont vite conscients. Alors après,
mais le truc qui a pas changé, c'est le show must go on. Enfin, je veux dire, n'importe qui bosse dans une boîte et qui a le nez qui coule, il va dire, j'ai 3 jours d'arrêt. Là, tu les vois, ils enquillent tous parce que, bah, ouais, c'est, je sais pas, on n'a pas l'impression que ça puisse se faire autrement, quoi. Et des fois, c'est bien, mais des fois, ça va trop loin et c'est vraiment, ouais, c'est, non, c'était mieux de finir sur.
Non, alors on termine sur la drogue. C'est bien. Pour le morceau, c'était Violet Indigo, Toxique.
Ouais, exactement.
Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Say it's your fault and act all depressed. No, talking about my feelings are various deals. Prefer to keep my wounds fresh rather than healing. This false mystery conceals my deepest misery. Yeah, I'm never ever getting any better. Il y a un petit refrain. Très bien, on aura eu le refrain comme ça. Ouais, oui, on écoute pour de vrai. Après, on laisse pas en entier parce qu'après, on a des problèmes de droit souvent, tu vois. Mais ouais, on met un extrait. Ah oui, maintenant, il va devoir choisir un autre truc parce que. Ah, parce
molécule.
C'est un truc qui n'est pas encore sorti ou non, c'est quoi?
Si, pas trouvé. Du coup, l'album est sorti, là. Si on est. Vous sortez. Enfin, l'album sort la semaine prochaine, donc du coup, il sera sorti.
Oui, il sera sorti. Oui, l'album est sorti, tout à fait.
Bah, voilà.
Par contre, je peux pas. Mais je peux pas le mettre sur mon ordinateur, là, par contre.
Si, parce que le single est déjà sorti.
Oh, c'est bien fait.
C'est tellement bien fait, effectivement.
On venait pas de parler du timing des sorties.
C'est vrai. D'ailleurs, Violet Indigo, que j'ai vu au Fnac Live cette année. Voilà.
Qui vient de Rouen.
Très bien.
Et qui est franco-américaine.
Qui est passée par une smack.
Bah, à Rouen.
C'est le cargo, non?
Non,
c'est le container.
C'est à Caen.
C'est la pépinière du cacatoès ou je sais pas quoi, là, non?
C'est le 106.
Le 106
à Rouen.
C'est le 106, très bien. Pardon. Oui, donc oui, le morceau de molécule.
S'il vous plaît.
C'est n'importe quoi, cette fin d'émission.
Le bac, 6 février, Olympia.
Stream effort.
C'est quoi, alors, le morceau? C'est.
Alors, ça va très bien résumer.
Horse Mars?
Alors tu peux.
Non, je sais pas, c'est un des derniers que je vois 8 septembre.
Moi j'allais dire Music, mais parce que pour ce beau titre, mais on peut mettre Horse Mouth. Je te laisse choisir.
Okay. Non, bah non, c'est à toi, c'est ta reco.
Ah écoute, musique, hein. Mets du molécule. Hein.
Non, non, c'est toi, Music, tu partais sur Music. Eh ben écoute, on fait ça. Molécule, musique. On rappelle qu'il est en concert très très bientôt, le 6 février.
Olympia, le 6 février.
Allez-y, absolument.
Parce que
il y a un refrain.
Ça y est, me prend une petite partie dessus sur la billetterie.
Non,
il est manager, hein, il va quand même prendre 20%.
Non, c'est limité à 15.
Ah,
on est un des seuls pays au monde où on est limité à 15%.
Bravo.
Allez, on s'écoute ça.
Bravo, la France.
Ah ouais, quand tu parles de grosse intro, ça parle vraiment longtemps avant. J'avance un petit peu, ça te va? Vas-y. Ah.
Ça doit donner à l'Olympia.
Mais ça donne envie d'aller à teuf là, ton truc.
Surtout qu'à l'Olympia, il y a un site dispositif mis en place.
Spécifique.
Honnêtement, ça fait vraiment manager qui parle, mais personne n'aura entendu quelque chose comme ça à l'Olympia.
Ah ouais.
C'est la première fois que ça va être spatialisé.
Ah ouais?
Oui.
Alors là, vraiment,
le 6 février, ça va vraiment être incroyable.
Ouais, non, mais commentez pour avoir une réduction.
Des commentaires.
Pour le carré or.
Attends, parce que l'équilibre, toujours, vous, ça se passera quand ou déjà le live avec les lauréats?
Le 29 janvier au Café de la Danse.
Voilà. Il faut être aussi le 29 janvier au Café de la Danse, Dave.
6 février, Olympia, mais Café de la Danse, c'est gratuit.
C'est mieux donc.
C'est pas mieux, c'est différent.
C'est gratuit.
Pardon.
Ouais. Pour rester quand même la thématique de ce qu'on a vu, donc le développement.
Non, arrête de faire ta pub.
Festival ici demain, 22 mètres au 24 novembre. C'est pas cher. Et vraiment.
Et ça peut rapporter gros.
Daz, quel est ta reco? Qu'as-tu envie d'écouter?
C'est un morceau qui s'appelle Spell.
Spell?
De Harvey Mason.
Allez, c'est parti. Ça part bien.
Ça part très bien. Amis sans pleurs.
Ils sont pas de Lyon.
Attends, essaie d'avancer jusqu'au refrain. Là encore.
Bon. Quel romantique ce Daz.
Ouais, moi, ma MPC s'est allumée toute seule.
Non.
Là, c'est la MPC, elle s'est allumée toute seule quand elle a entendu le morceau. Elle a fait attends. Il y a tellement de trucs à prendre. Voilà, c'était dans ma liste.
C'était quoi, rappelle-nous, et Brandon, parce que je trouve Marocco. Moi.
Harvey Mason, le morceau s'appelle Spell. Et voilà, c'est le bonheur du sampleur, là. Franchement, il y a plein de trucs à bouffer à droite à gauche.
J'ai trouvé une reco. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé un artiste que je vais mettre en avant.
Vas-y.
Un peu dans le même esprit que toi. Parce que on parlait, avant, je t'avais écouté un truc lyonnais. Reprend Free and Easy de René Angela. Et on va mettre du René Angela parce que j'adore ce groupe.
D'accord.
Et je me demande même si.
Il n'a pas eu le faire.
C'est sûr qu'ils ont eu le faire. C'est complètement leur époque. Et en plus, ils étaient en France. Enfin, bref. Non, et parce que je sais que tu as une époque côtoyé DJ Mehdi.
Ouais.
Qui d'ailleurs avait repris du René Angela l'intro, mais c'est peut-être pas ce morceau-là.
Enfin, le truc de René Angela sur la danse des Caïra, ça a été repris par Ménélique aussi, je crois.
Alors ça, c'est possible. Je mets Free and Easy, vas-y, attends.
Alors non, mais c'est pas grave. Ça slap à fond.
Il y a de la 5 cordes là.
Vraiment de la musique de Lyonnais ça.
Ah clairement, alors on y est. Non, c'est quoi? Allez, je m'amuse juste pour la reco pour une fois. La version lyonnaise, ça serait la version de Plush éventuellement.
Oui.
Là c'est la version lyonnaise.
Close the door. C'est pas.
Ah ouais, c'est vraiment putassier, j'adore. Ok, très bien. C'est quoi le nom du club à Lyon où tout le monde allait danser?
Oui, tu vois, c'est la version légèrement plus électro-funk, tu vois, un peu disco.
Ouais, très...
ça, plus lyonnaise, plus funk.
Beaucoup plus lyonnaise.
Plus funk quartier, tu vois.
Ouais.
Bref, voilà, René Angela, et là c'était Plush, Free and Easy.
Bravo.
On remercie tout le monde, on remercie la bouclette évidemment.
On remercie la bouclette, hein, bien sûr, Flav, oui. Flav et Sam, Manchot, mais
Iris qui est installé
présent.
Aussi.
Iris également,
oui.
Qui est parti faire de la flûte traversière. On remercie Greg.
Oui. Hein, non, lui a rien fait, Greg. Là,
bah si, il m'a prêté une machine.
Ah ouais, mais c'est pour toi, c'est
montage.
Pas.
Bah ouais, mais je le remercie, Greg.
Okay,
merci Greg de Black Magic, bien sûr. On remercie Black Magic, ils ont des caméras aussi. On remercie Thomas.
On remaît François.
On remercie François.
Attends, attention, sinon il te au montage. Il te fait du mal.
Ouais, hein. Bah oui, je sais. Non, François, big up. Et puis, on va remercier nos invités, quand même.
Absolument. Julien Soulier, Sayem, merci beaucoup.
Merci à vous, les gars.
C'était bien cool. Ouais, allez checker, évidemment, le Fer, FGO Barbara, les trois Baudets. Allez voir tout ce qu'ils font.
C'est Olympia, le 6 février, Café de la Danse, 24 janvier.
Oh là là. Il a bien retenu.
Il est fort, 29 janvier.
Oh là 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 là.
Allez-y, le 24, tu auras peut-être un truc cool. Revenez le 29.
Et nous, on se retrouve évidemment dans 15 jours, un nouvel invité, un nouveau sujet, mais toujours passionnant, promis. Ciao.